Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Flora Moussi.
Il est 17h05 bientôt sur RMC. Salut à tous, c'est parti pour deux heures de live dans l'Intégral Foot. Après, ce sera Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet pour Bartoli Time avec en invité exceptionnel la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra. Mais d'abord, on est avec notre ministre à nous, Coach Courbis. Salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
J'espère que tu te régales. Bah, je sais que tu te régales avec cette Coupe de France. Coach, suite et fin des 32e de finale aujourd'hui, avant le déplacement ce soir du PSG du côté de Castres pour y défier Revel, pensionnaire de National 1. D'autres clubs de Ligue 1 sont sur les pelouses. À 17h30, on va suivre notamment le tenant du titre, Toulouse, en déplacement à Chambéry, et Reims qui défie Dinan. On reviendra aussi sur l'une des surprises hier, Sochaux, pensionnaire de National, qui éliminait Lorient, pensionnaire de Ligue 1. Oswald Tanchot, le coach sochalien, sera notre invité dans quelques instants. Et puis si vous nous rejoignez sur AMC, on vous rappelle les qualifications de Marseille, de Lyon, de Monaco au tir au but face à Lens, du Havre et de Rennes. Allez, c'est parti pour l'Intégral Foot. Et c'était l'une des surprises hier de cette Coupe de France. Sochaux, désormais en national, a éliminé Lorient, certes mal en point en Ligue 1, mais quand même, Sochaux, un club qui revient de loin, et l'un des artisans de ce retour est avec nous aujourd'hui, le coach sochalien Oswald Tanchot. Bonjour Oswald, merci beaucoup d'être avec nous.
Oui, bonjour. Bonjour Roland.
Salut Oswald et bonne année en même temps. Je vois que pour la bonne année,
bien.
Elle commence pas mal du tout.
Merci Roland. Je te présente mes voeux également, mes meilleurs voeux.
Félicitations à vous pour cette qualification pour les 16e de finale. Toute la semaine avant le match, hein, vous l'aviez dit, si votre équipe se qualifiait, ce serait un exploit. Et ben ça y est, vous l'avez réalisé cet exploit.
Ben, c'est vrai que éliminer une équipe de Ligue 1, ça reste un exploit, d'autant plus que maintenant les clubs de Sochaux on évolue en national et que il y avait une attente autour de ce match-là pour remettre un peu le club un peu dans la lumière par rapport à tout l'été mouvementé qu'on avait vécu.
Il y avait beaucoup d'émotions après la victoire. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé dans le vestiaire avec vos joueurs, comment vous avez fêté ça.
Bon, on a surtout savouré cette victoire avec notre public sur le terrain. Dans le vestiaire, ça a été calme. J'ai félicité les joueurs, je les ai laissés entre eux, mais il y avait beaucoup d'émotions parce qu'on a vécu avec ce groupe des moments beaucoup plus compliqués et moins gais que celui-ci, et c'était un peu symbolique pour nous de démarrer l'année 2024 avec ce plaisir-là.
On va en parler hein, justement évidemment, je le disais, Sochaux qui revient de loin, on va revenir là-dessus, mais le scénario aussi du match hier fait qu'il y avait autant d'émotions autour de cette victoire. Vous étiez mené 1-0, vous égalisez en seconde période et puis il y a ce pénalty transformé pour vous à la 93e minute. On imagine que vous, sur le bord de la pelouse, vous deviez être tendu quand même jusqu'au bout. Hein.
Oui, c'est vrai que il y a eu une charge émotionnelle sur ce moment-là. Donc, quand c'est dans les derniers instants et qu'il y a un pénalty avec beaucoup d'attente et de temps avant de le frapper, effectivement, c'est surtout, je pense, compliqué pour le frappeur, mais aussi pour les gens dans le stade. On avait confiance dans notre tireur parce qu'on savait qu'il avait une qualité dans cet exercice-là pour concrétiser.
Même si c'était un moment fort. Même si tirer le pénalty de la victoire, c'est quand même pas le plus compliqué, c'est pas évident, mais c'est pas le plus compliqué puisque en cas de pénalty raté, tu n'as pas perdu.
Exactement, c'est pas une pression négative, c'est plutôt une pression positive pour transformer tout ça en joie. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui doit paralyser, mais au contraire.
Mais en tout cas, c'est magnifique. On se met à la place du tireur.
Bah oui.
Et c'est sûr que ça, pour ses coéquipiers, même si on est dans un sport collectif, revoir Sochaux. À nouveau maintenant, alors que bon, on a vécu cette intersaison compliquée, revoir Sochaux au tirage au sort demain soir des 16e de finale, sincèrement, ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Et évidemment, j'ai joué trois ans dans ce club à mes débuts. C'est sûr que je ne m'imaginais pas Sochaux ne plus exister.
On est avec Oswald Tanchot, le coach sochalien qui a éliminé Lorient hier en 32e de finale de la Coupe de France. On parlait de ces derniers mois compliqués, Oswald, pour le club. Il y a eu cette relégation administrative en national. Ensuite, la menace même d'un dépôt de bilan. C'était important aussi pour vous de montrer que sur le terrain aussi, votre équipe est capable de beaucoup de choses.
C'est aussi une façon de tourner cette page-là, la page, on va dire, des démêlés administratifs et financiers du club. Dans cette reconstruction-là, ça passe aussi par des moments forts au niveau sportif, mais c'est pas évident parce qu'on est une équipe qui s'est construite très tard et avec beaucoup beaucoup de jeunes qui font pour la plupart d'entre eux leur première saison en équipe première. Il y en a qui sont passés directement des U19 au championnat senior, et on sait que le championnat national n'est pas le meilleur championnat pour les jeunes joueurs parce que c'est un championnat d'adultes très dense athlétiquement.
Puis bon, la Coupe de France, c'est extraordinaire pour Sochaux et pour justement l'histoire et cette saison. Mais bon, on regarde le classement aussi. La première place, je pense qu'il faut plus s'en occuper. Mais la deuxième place, elle est ouverte pour moi pour 5 à 6 clubs, dont Sochaux.
C'est vrai que la première place, elle semble promise au Red Star qui est très solide et qui a un vrai matelas d'avance au classement. Mais c'est vrai qu'après, tout est ouvert pour le reste, mais c'est ouvert partout. Hein. C'est ouvert en haut, c'est ouvert en bas. Il y a un championnat où les équipes peuvent toutes se neutraliser ou se battre.
Ouais, cette victoire quand même et cette qualification en Coupe de France, ça va vous booster aussi pour ce début d'année, justement, cette montée à aller chercher.
Bah, on est sur une très bonne dynamique en termes de résultats depuis un moment. Je crois que depuis un long moment, on a uniquement perdu contre Niort. Et si on inclut la Coupe de France, ça fait peut-être 14 ou 15 matchs avec une seule défaite. Donc la dynamique est bonne, mais on doit maintenir nos joueurs dans un esprit collectif parce qu'il y en a certains d'entre eux qui sont sollicités, vus, et il faut savoir gérer tout ça aussi.
Justement, comment vous arrivez à gérer tout ça, vous, avec vos joueurs?
Bon, de toute façon, simple, en les reconcentrant sur les axes de progrès, sur les choses qui doivent améliorer pour faire des joueurs un peu plus complets dans tous les registres. Et ils ont besoin de travailler. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fini leur formation, donc on a un devoir aussi de les faire avancer dans tous les registres. Mais c'est vraiment leur fixant des objectifs de performance.
Il y a plusieurs possibilités pour le tirage de demain, mais Sochaux-Le Havre n'est pas impossible.
Ça serait un beau clin d'œil de recevoir...
On rappelle, vous avez été coach du Havre.
Et puis ça me ferait plaisir de revoir Lucas Elsner et son staff, Serge Costa. Mais bon, quand on est en 16e et qu'on est Sochaux, tous les matchs à la maison seront des bons tirages. Mais c'est vrai qu'on aimerait revivre un moment à domicile.
Justement, du coup, est-ce qu'on espère tirer un autre club de Ligue 1 pour réaliser à nouveau un exploit, ou alors on préfère viser un peu moins haut? Quel est votre état d'esprit par rapport à ce tirage?
Moi, je pense que les joueurs préfèrent jouer les plus grosses équipes possibles. Je pense que quand on est compétiteur, on se confronte aux meilleurs, mais bon, moi, c'est ma priorité. Vous allez dire que c'est bateau, mais ça reste quand même le championnat parce que on n'a pas un effectif extensible et on n'a pas une capacité à faire tourner énorme. Voilà, on s'appuie beaucoup sur nos centres de formation pour étoffer le groupe. Mais on a aussi des blessés en ce moment. Hier, on avait l'ensemble du milieu de terrain d'absent, quasiment, avec Ogas, Viltard et le petit Akra qui était sur le banc. Donc, on regarde tout ça, mais moi, un match à domicile, ça m'irait bien.
Peu importe l'adversaire, alors.
Moi, j'aimerais bien jouer une Ligue 1. J'aime bien jouer une Ligue 1.
Voilà.
Ça met un coup de projecteur autre qu'administratif ou juridique sur le club. Ouais, et c'est très bien.
Ça permet de progresser aussi.
Excuse-moi, Roland, j'ai pas entendu.
Ça permet de progresser aussi.
Exactement, c'est ça. Parce que mes joueurs, et on leur parle du niveau au-dessus, mais ils le connaissent pas, donc c'est bien de confronter. On voit hier que il a fallu vraiment, vraiment puiser dans les ressources, et ce matin, au décrassage, il y avait beaucoup de fatigue dans nos rangs.
Ça, je me doute. La nuit a dû être courte aussi. Merci beaucoup, Oswald Tanchot, d'avoir été avec nous dans l'Intégral
Foot. Merci pour l'invitation.
Salut, Oswald.
Et puis, bonne chance pour la suite.
Merci,
on
Roland.
On retrouvera en 16e de finale, évidemment, de cette Coupe de France. Merci beaucoup. 17h12 dans l'Intégral Foot sur AMC. On revient tout de suite avec Coach Courbis. On vous rappelle à 17h30 que la Coupe de France ça continue avec la suite des 32e de finale. On va suivre notamment le tenant du titre, Toulouse, qui sera du côté de Chambéry. Puis autre club de Ligue 1 aussi, Reims, sera sur les pelouses. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Flora Moussi.
17h17, on est de retour dans l'Intégral Foot sur RMC avec Coach Courbis. Les 32e de finale de la Coupe de France qui continue à 17h30 avec notamment deux clubs de Ligue 1 sur les pelouses. Et d'abord le tenant du titre, Toulouse, qui se déplace à Chambéry. On va prendre la température tout de suite avec Edouard Jay. Salut Edouard.
Salut Flora, salut coach, bonjour à tous.
Salut,
bienvenue en Savoie.
Toulouse qui entame la défense de son titre et le moins qu'on puisse dire, Edouard, hein, c'est que c'est dans une forme eh bien catastrophique en ce moment pour les Toulousains.
Oui, on va compter le trophée des champions. Alors vous allez me dire c'est dur hein, face au PSG, en plus au Parc des Princes, une défaite en milieu de semaine. Et puis on reste sur 10 matchs sans victoire, plutôt 5 défaites et 5 nuls en championnat. Ça va pas des masses donc pour l'équipe de Damien Comolli, que j'ai croisé il y a peu de temps, le président là, délégué. Et il est tendu, l'image un petit peu de tous ces joueurs avec une équipe qui normalement devrait être, alors j'ai pas tout le détail, mais notamment assez jeune en défense, avec Nicholsen, Spierings et Don Moon et Guillaume Rest, le gardien, tous ces gens-là sont sur le banc avec une équipe donc, qui va être un petit peu, il y a quand même du turnover, plus les joueurs qui sont partis à la CAN. Je vous détaillerai tout ça quand j'aurai vraiment, mais ça c'est les grosses tendances pour cette équipe de Toulouse qui vient défier l'un des habitués de cette Coupe de France, en tout cas qui va inaugurer son joli et nouveau petit stade.
Ben justement, parlons-nous un petit peu de cette ambiance dans cette région plus habituée au ski qu'au foot, quand même, faut bien dire, et dans un stade en plus habitué à voir jouer du rugby que du foot, justement.
Oui, c'est un stade tout neuf, inauguré le 29 septembre dernier, de la volonté de la mairie de donner à la région, plus généralement à Chambéry, mais aussi à toute la Savoie, un outil pour le rugby et le foot, un outil multifonction avec une pelouse hybride. Ceci explique cela, hein, parce que par exemple, au tour précédent face à Grenoble, ici même le samedi, la veille, il y avait eu un match de rugby. C'était jouable au mois de décembre parce qu'il y avait justement cette pelouse synthétique. Et donc, c'est un stade de 5000 personnes et il y avait les places par exemple se sont envolées en une vingtaine de minutes, hein. C'est pour dire s'il y avait une appétence pour ce match, et les dirigeants me disaient, Jean-Louis Saint-Bonnet le président notamment me disait qu'il y avait possibilité de vendre 10 000 billets, hein, pour cette rencontre, parce qu'il y a une vraie appétence pour le foot ici entre Grenoble, Annecy et un petit peu plus loin Lyon, pour une équipe de Chambéry habituée au 32e de finale, parce que l'année dernière ils étaient passés ce tour à Aubagne, ils étaient allés jouer contre Grenoble, et à l'époque il n'y avait encore pas ce stade, jouer contre Lyon pardon, il n'y avait encore pas ce stade ici, il était en finalisation de construction, et du coup ils avaient dû jouer au Groupama Stadium, mais voilà, cette année on peut jouer ici pour cette équipe de Chambéry qui, on se souvient, hein, il y a 12 ans de cela, 13 ans même, 2011, hein, ça ne nous rajeunit pas, il y avait eu sur cet endroit-là, là où il y a le stade de cette année, parce que on a déconstruit le précédent pour mettre le nouveau, il y avait eu cette fameuse série des trois équipes de Ligue 1, Monaco, Brest et Sochaux, éliminées ici même sur cette pelouse en 32e, 16e et 8e de finale.
On va voir si c'est une pelouse qui porte malchance au club de Ligue 1. Coach, c'est vrai, pour parler de cette équipe de Toulouse, ça va vraiment pas fort en ce moment. On se demande jusqu'à quand Carles Martinez va rester en poste. Il y a la parenthèse Coupe d'Europe qui est là, évidemment, mais en championnat, c'est catastrophique en ce moment.
C'est vrai, après il y a des explications qui sont quand même un petit peu compliquées, puisque ça marchait pas très mal quand il y a eu changement d'entraîneur. Il y a quelque chose qui certainement nous échappe. Et là, c'est sûr qu'on attend toujours redressement. Est-ce que le fait de jouer cette coupe, puisque c'est quand même le tenant de cette coupe, va peut-être déclencher psychologiquement un choc. On attend toujours que ce soit le changement d'entraîneur.
Le petit déclic.
Et là, on va voir ce soir. C'est vrai qu'une qualification ce soir, ça serait la bienvenue déjà pour être en 16e de finale, mais aussi pour retrouver une certaine confiance.
Oui.
Et que ça servirait en championnat.
Oui.
C'est sûr que 5 défaites, 5 nuls, c'était pas prévu du tout, et on se l'imaginait pas du tout. Nous aussi, quand on essaye d'observer un petit peu tout.
Ouais, et à l'inverse, une défaite aujourd'hui serait encore pire pour les Toulousains.
Ah, ouais.
Merci Edouard, on te retrouve dans quelques minutes maintenant pour le coup d'envoi de ce Chambéry-Toulouse. Ce sera à 17h30. À tout à l'heure, Edouard.
À tout à l'heure.
Autre club de Ligue 1 sur les pelouses, Reims, en déplacement à Dinan. Et quand on va en Bretagne, on retrouve évidemment Pierre-Yves Leroux. Salut Pile.
Salut Flora, salut coach.
Salut Pile.
Bienvenue au stade du Clos Gastel. Alors, il faut dire quand même que j'avais jamais commenté ici, hein, à Dinan, dans ce stade du Clos Gastel. Mais il y a des auditeurs d'RMC qui sont venus me voir en disant on est très content de vous voir. Voilà, c'est aussi ça, de faire les stades de 32e de Coupe de France.
C'est très agréable. RMC, on est partout.
Ouais, on est super bien accueillis, donc c'est vraiment très plaisant. Ce petit stade qui sent comme le. Vraiment, ça sent bon le traquenard. Parce qu'il y a du monde tout autour de cette main courante. 2500 personnes, c'est plein comme un œuf. Et il y a certains dirigeants qui m'ont dit, depuis le milieu de la semaine, on sent quelque chose monter. La pelouse est un petit peu grasse, comme il faut pour que les joueurs de Ligue 1 soient un peu embêtés. Voilà, on a en tout cas tout le décorum est planté, Flora.
Ben justement, parle-nous un petit peu, on va parler de Reims après, mais parle-nous un petit peu de ce club de National 2, dont les joueurs, pour certains, sont toujours amateurs.
Oui, oui, c'est un peu la règle ici. Tout le monde travaille, d'ailleurs, même le coach, Stéphane Lamant, qui est cadre bancaire. Et bien, c'est la première saison qu'ils font cette année en National 2. Ils étaient en National 3. Et ils se sont vraiment posé la question de savoir si c'était une bonne idée de monter, parce que les infrastructures sont quand même un petit peu justes. Et puis, ça voulait dire augmenter terriblement le budget, aller chercher des contrats fédéraux, etc. Il n'y a qu'un demi-contrat fédéral. Tout le monde travaille ici, donc il faut s'organiser. Donc c'est vraiment effectivement un club amateur. Et on a préféré faire le choix en fait d'investir sur les infrastructures et par exemple l'achat d'un car. Et puis pour vous donner une petite idée, tiens Roland, est-ce que tu as une petite idée de la prime de victoire du côté de Dinan-Léon en championnat?
En championnat, elle est 200 euros.
À 90.
Bon. Oh, ah oui. Bon, ouais. Je suis généreux, ouais, non, je donnais le double. C'est peut-être que
peut-être qu'aujourd'hui,
dans le vestiaire, le président de temps en temps, si la victoire elle est belle, eh ben, il donne ça.
Il rajoute un petit peu.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Peut-être qu'aujourd'hui, ça sera plus.
Peut-être
si ça passe.
Qu'une victoire aujourd'hui, effectivement. Tu parlais de possible traquenard aujourd'hui pour Reims sur cette pelouse de Dinan. Grosse saison hein, pour les Rémois en Ligue 1, même s'ils marquent le pas un petit peu ces derniers temps. Et la Coupe de France, justement, aussi, ça peut être une belle occasion de récompenser cette saison. Vraie découverte aussi pour Will Steel, hein.
Bah oui, oui, bien sûr. Il y avait eu les exploits en championnat l'année dernière. C'était un petit peu moins bien en coupe. Donc pourquoi pas cette année aller faire un parcours en Coupe de France. Mais le souci, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'absents. Il y a 8 joueurs qui sont pas là parce qu'il y a la CAN avec des joueurs comme Abdelhamid ou encore Diakité, Richardson, etc. Il y a des blessés aussi, des suspendus. Donc il va falloir en voir si cette équipe. Bon, logiquement, il y a vraiment une différence hein, entre la Ligue 1 et le National 2. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et la petite info, c'est qu'on retrouve dans les buts Alexandre Oliero qui est titulaire et que bah, j'avais vu débuter avec un certain Vahid Aliyev du côté du FC Nantes en 2019 et c'est lui qui sera chargé de garder la cage inviolée ici sur ce stade du Clos du Castel.
Dinan Reims, coup d'envoi dans 5 minutes maintenant sur RMC avec donc toi pile aux commentaires. Merci, on te retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi, autre match qu'on va suivre dans ces 32e de finale dans ce multiplex. On va du côté de Bergerac face à Libourne aujourd'hui avec on est dans le sud-ouest là, avec Nicolas Paul Orsi. Salut Nico.
Salut Flora, salut coach, bienvenue à Coréal.
Un petit derby aujourd'hui pour toi, de club de National 2.
Un petit derby dans un stade champêtre, comme pile, voilà, 1500 personnes, des supporters qui sont massés le long de la main courante, et tu le disais, 80 km d'écart entre ces deux clubs qui se disputent un petit peu l'hégémonie du meilleur club de la région derrière les Girondins de Bordeaux. Ces deux clubs qui se connaissent par cœur, ils évoluent dans la même poule de National 2. Il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà joué à Libourne ou à Bergerac. Donc il y a une vraie rivalité, c'est une vraie petite guerre de clochers. Match et les Libournais d'ailleurs ont fait le déplacement avec leurs supporters, donc l'ambiance va être sympathique. Le seul problème, c'est que je vois pas la moitié du terrain parce que je suis juste derrière la caméra du diffuseur. Ça va être compliqué de commenter.
Bah, change de place.
Bah oui, mais je peux pas. Ah, mais c'est ça aussi la magie de la Coupe de France.
T'es bien accueilli, j'ai l'impression.
Évidemment, mais oui, non, mais on est très bien accueilli, franchement. On est super bien accueilli, mais bon, le stade est tellement petit que.
T'es reconnu par tout le monde et on te remercie d'être venu commenter ce match ou pas?
Non, j'ai pas le statut de Pierre-Yves Leroux.
Et encore du boulot, tu vois, Nico. Allez, on se retrouve dans quelques instants, 3 minutes maintenant pour le coup d'envoi de ce multiplex des 32e de finale. On marque une très courte pause sur RMC. L'intégral foot revient après avec Coach Courbis pour le coup d'envoi de ces 6 matchs au programme des 32e de finale de la Coupe de France. A tout de suite sur RMC.
RMC, intégral foot.
Flora Moussi.
À 17h29, on est de retour dans l'intégral foot avec Coach Courbis pour suivre les 32e de finale de la Coupe de France. Vous avez suivi un petit peu plus tôt les qualifications de Marseille, Lyon, Monaco, tir au but face à Lens, Le Havre et Rennes. Deux autres clubs de Ligue 1 sont sur les pelouses à 17h30. Toulouse du côté de Chambéry, Reims du côté de Dinan. On suivra aussi le derby entre Bergerac et Libourne et puis trois autres affiches aussi. Donc on vous donnera les résultats en direct. On va aller tout de suite du côté de Chambéry retrouver Edouard Jay. Le coup d'envoi va venir dans quelques secondes maintenant de ce match du tenant du titre, Toulouse.
Oui, dans un stade plein, 5000 personnes donc dans ce Chambéry Savoie Stadium, c'est le nouveau nom du stade municipal ou le municipal comme vous voulez, construit donc et inauguré au mois de septembre dernier pour le rugby principalement, mais aussi il le prête aux cousins du foot, et le foot, eh bien ça sera pour cet deuxième match d'ailleurs fait ici sur cette pelouse après le match face à Grenoble. C'était au huitième tour au mois de décembre dernier. dernier. Et à noter que tout va bien au niveau des dirigeants, hein, puisque lors d'un repas à midi, parce qu'on est comme ça en Savoie, on invite les dirigeants adverses, et bien le président de Chambéry a invité son homologue Damien Comolli, et ils ont décidé, les Toulousains, de laisser d'ores et déjà, quel que soit le résultat, la recette au club de Chambéry, environ la recette donc billetterie, environ 35 000 euros. Ça fera du bien, bien évidemment, aux finances, alors que le coup d'envoi est donné justement par les jaunes et noirs, c'est-à-dire par les Chambériens, pour un budget de 500 000 euros. 35 000 euros, c'est pas mal. En ah plus, oui. Donc, de la dotation de la Coupe de France, c'est à noter. Donc, c'est décidé dès avant le match.
Quel que soit le résultat. Ouais, évidemment, ouais. Je plaisante.
Non, mais c'est joli geste, non, quand même.
C'est tout décidé avant, voilà.
Ouais, c'est un joli geste, ça, quand même, la part de
Toulouse. C'est magnifique.
Mais ça fait aussi partie de ce charme de la Coupe de France. Alors, parle-nous un petit peu de cette équipe de Toulouse, tiens, Edouard, parce qu'on disait avant match qu'il y avait pas mal d'absents, quand même.
Oui, il y a pas mal d'absents. Je vous ai parlé donc de Nicholson, de Spearings, de Don Moon, de Guillaume Rest qui sont sur le banc, et ça nous donne une équipe avec donc, puisque Guillaume Rest laisse son poste à Dominguez, avec notamment Keben Mavissa, la défense centrale qui est toute nouvelle pour cette équipe. Dans la défense, il y a Suazo qui est d'habitude titulaire, donc Suazo avec Kamanzi pour compléter la défense, alors qu'il va y avoir un bon coup franc là pour les Chambériens, mais dégagé par les Toulousains. Au milieu, Cazer, Vincent Sierro, le Suisse, avec son brassard de capitaine et Esquita, et puis devant Sissoko, Dalinga et Bregragui. Donc pour cette équipe de Toulouse qui est à quand même, c'est pas de l'expérimental, mais pas loin pour jouer donc ce 32e de finale face à Chambéry. Chambéry, c'est presque la même équipe que l'année dernière qui avait disputé un 16e de finale face à Lyon au Groupama Stadium. 0-0 donc, 1 minute 30 de jeu.
On va aller du côté de Dinan. Non, c'est pas encore parti hein, pour toi face à Reims, Pierre-Yves.
Non, oh ouais, c'est
une festivité. Oui,
ici
les autographes, Pierre-Yves, ouais, c'est ça, il est trop occupé.
C'est parti à Bergerac.
Ah, bah, j'ai une bonne nouvelle pour Nico Paul Orsi. Je viens d'avoir les dirigeants de Bergerac qui devraient lui apporter une petite chaise pour qu'il monte dessus et qu'il puisse voir le terrain. Ça, c'est quand même
le
bon pas.
Oh, le coup bas.
C'est vilain, ça.
En tout cas, c'est parti chez toi ou pas, Pierre-Yves?
Non, pas encore. Pas encore, ouais, tranquillement. Parce qu'il y a un ancien joueur de Reims qui habite dans la région, qui vient de donner le coup d'envoi fictif et qui ressort tranquillement du terrain. Donc ça va partir d'ici une dizaine de secondes. Si tu veux, tu peux aller à Bergerac.
Et on va y aller, effectivement, parce que Nicolas Paul Orsi nous disait que c'était parti dans ce derby entre Bergerac et Libourne, de pensionnaires de National 2 aujourd'hui.
Oui, c'est parti depuis quelques secondes entre Bergerac et Libourne. Le premier ballon pour les Bergeracois, alors que les Libournais ont mis un ballon dans la surface de réparation. Je vous parlais de deux clubs qui se connaissent par cœur. L'avantage, il est plutôt côté libournais quand on voit le début de saison, parce que Libourne est la deuxième place de cette poule de National 2, alors que Bergerac, qui avait des ambitions, galère un petit peu. Ils ont des matchs en retard, mais ils sont dixième, juste avant la zone de relégation. Le ballon pour Pierre Laborde. Ouais, dans le même groupe, coach. Exactement. Pierre Laborde qui dégage. C'est dévié sur le côté droit. Ils ont une première situation, les Bergeracois, avec Mlab qui va trouver Louis Oboula. Est-ce qu'il y a faute? Non, il y aura une sortie de but pour Over Mandanda, garde les buts de Libourne. Over Mandanda, frère de Steve Mandanda, qui a été formé au Girondins de Bordeaux et qui joue à Libourne.
Comme quoi, il y a 30-0.
Ouais, c'est une famille de gardiens.
Oui, parfait. Mandanda aussi. Joue à Caen, je crois, il me semble. Donc il y a Over qui joue en National 2 et Steve qui joue à Rennes.
Comme quoi, cette famille, c'est dans les gènes aussi, du ben côté des Mandanda. C'est parti, ça y est, hein, du côté de Dinan, face à Reims, Pierre-Yves.
Ouais, exactement, depuis une minute exactement, et déjà un premier corner pour Dinan. Et je me moque de Nico, mais je suis incapable de commenter le côté de, le corner, le poteau de corner. Il y a trop de monde, je vois pas du tout, je sais pas qui va tirer du côté de Dinan. En tout cas, ça montre que cette équipe de National 2 a envie de mettre la pression tout de suite sur Reims, avec le centre qui va arriver à hauteur du point de pénalty, et les joueurs Raymond avec Teddy Thomas notamment, qui vont se dégager rapidement. Ça peut aller vite, par contre, en contre, attention à la punition immédiate, mais la sortie du portier de cette équipe de Dinan et permet à tout le monde de se retrouver en meilleure position pour les Bretons. On n'a pas précisé que Dinan, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est à quelques kilomètres de Saint-Malo. Il y aura une position de hors-jeu là du côté des joueurs.
On a perdu Pierre-Yves, qu'on va retrouver dans quelques instants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, on le voit hein, sur les images, nous ici. Beaucoup de monde un peu partout.
Il aime bien Pierre-Yves Leroux, mais ils lui ont coupé la ligne quand même.
Oui, ben, en fait, c'est ça. Ils veulent le garder pour lui, en fait, je pense.
Il nous
là,
a vendu du rêve, quoi, en fait.
on va retrouver Edouard. Tiens, tu nous parlais à l'instant pour ce Chambéry TFC. Comment s'en sortent les Toulousains dans ce début de match?
Ouais, ils ont du mal, hein. 0-0, bientôt 5 minutes de jeu. L'essentiel du jeu pour ce petit round d'observation que l'on observe, le ballon est plutôt dans les pieds des Chambériens et on sent qu'ils ont du mal à rentrer dans le match. Léo Garonnet, Sissoko qui essaye de jouer avec Vincent Siro derrière, mais il y a le bon retour. Non, finalement, le jeu continue, même s'il y a un jaune et noir, un Chambérien à terre, mais l'arbitre va intervenir pour couper le jeu, toujours 0-0. Alors pour les conditions, donc la pelouse est parfaite, hein, parce que c'est une pelouse synthétique, mais il fait vraiment très froid. Les montagnes aux
alentours. Est-ce qu'il y a de la neige autour de toi?
Oui, bien sûr. Alors là, on la voit plus parce que le soleil est bien évidemment, la nuit est tombée, mais il y a de la neige tout autour sur les magnifiques Beldon qui sont juste en face de moi, le massif de la Chartreuse juste derrière, ou encore un autre massif des Bauges. Pour ceux qui connaissent la région, il y a de la neige jusqu'à à peu près 1000 mètres d'altitude. Il a beaucoup neigé sur ces dernières heures. Des Chambériens qui s'organisent là avec Pujol qui essaye de retrouver le ballon, mais il va y avoir une touche pour Silla sur le côté droit. Les Chambériens qui pour l'instant, il y a 5 divisions d'écart, hein, puisque c'est National 3 pour cette équipe de Chambéry. Eh bien, on arrive à bien s'organiser, même si là il a le bon retour de Suazo qui permet, ça va être difficile pour Keben de dégager le ballon sous le pressing des Savoyards, mais le ballon est quand même conservé par les professionnels de Toulouse. 6 minutes de jeu, 0-0, les professionnels de Toulouse face à des joueurs qui ont tous un travail. Ici, ils ont, certes, il y a 2 contrats fédéraux, mais même les 2 contrats fédéraux, eux travaillent, donc ils sont électriciens. Attention avec peut-être cette balle pour le but. Le but de le but de Skita, bien lancé dans le dos de la défense chambérienne. On s'est oublié là entre Pujol et Braillon, et Skita qui est allé marquer donc le premier but. Nathan Skita qui est allé concrétiser, c'est tout simplement la première action toulousaine. Nous en sommes à la 7e minute et Toulouse donc qui d'entrée marque un but qui va sûrement leur faire du bien, dès la 7e minute. C'est l'essentiel qui est fait, parce que c'est vrai que dans l'ensemble, jusque là le ballon était plutôt,
on sentait que Chambéry était entreprenant
le match est loin d'être terminé, mais c'est sûr qu'avec le nouveau règlement, marquer un but, je ne dis pas que ça va éviter la prolongation, mais en tout cas, ça te soulage un peu.
L'ouverture du score pour Reims, l'ouverture du score avec cette passe d'Amin Salama qui ouvre pour Mamadou Diakon. Et là, c'est vraiment comme à la parade, c'est trop facile. Et c'est l'ouverture du score pour Reims face à Dinan après 5 minutes exactement ici au stade du Clos de Gastel. Les joueurs de Ligue 1 qui profitent de leur première occasion, parce que Dinan avait bien débuté ce match. Première occasion et ça fait but 1-0 pour Reims.
Ouais, quelques secondes d'intervalle à Toulouse qui ouvre le score face à Chambéry, Reims qui ouvre le score face à Dinan. Ça aussi, ça va faire du bien au Rémois coach. Ah, cette ouverture du score très rapide.
Ça, c'est sûr que bon, on en a suffisamment parlé et on en reparlera encore. Ce nouveau règlement qui évite maintenant de jouer la prolongation
directement sur but.
Ça change beaucoup de choses. Alors que le club plus faible, entre guillemets, espère aller à la fin de ce temps réglementaire pour justement directement pouvoir tirer les tirs au but. Et ça, c'est sûr que si tu peux l'éviter, tu évites le piège.
Ah bah oui, tu évites de te mettre en difficulté, effectivement. Donc 1-0 pour Toulouse, 1-0 pour Reims. On suit également 3 autres matchs avec notamment un pensionnaire de Ligue 2, Laval, qui est sur la pelouse. Et ça commence bien aussi pour le Stade Lavallois. Johan Bredov qui va suivre tout ça pour nous. Salut Johan.
Salut Flora, salut coach. Ça commence bien pour le 4e de Ligue 2, Laval, qui mène donc 1-0 à la 9e minute de jeu sur la pelouse de Dieppe. C'est Vargas qui vient marquer d'une belle tête plongeante dans la surface de réparation. Donc 1-0 pour Laval à Dieppe. Et 2 autres rencontres, tu le disais. On suit aussi Louhans-Cuiseaux face à Rouen, 0-0. Louhans-Cuiseaux, pensionnaire de N3, Rouen qui évolue en national. Et ensuite un derby, Feur contre Saint-Priest, 2 équipes qui se connaissent bien, qui sont dans le même groupe en national 3, 0-0 entre les 2 équipes à la 10e.
Voilà, des yeux partout. Effectivement, on va retourner du côté du sud-ouest, Bergerac face à Libourne, Nico Paul Orsi.
La 8e minute, 0-0 entre Bergerac et Libourne. Bergerac qui domine. Il y a des bonnes situations là sur le côté droit avec Mlab qui est souvent lancé en profondeur. Deux équipes qui jouent à trois défenseurs centraux derrière sur des schémas tactiques assez similaires en 5-3-2 ou 3-5-2 en phase offensive. La récupération pour les Libournais dans l'entrejeu, c'est bien fait. On essaye de combiner avec Anthony Castera, le buteur libournais, qui essaie de décrocher pour offrir une solution. Et c'est bien défendu et récupéré par Bergerac avec Fati sur le côté gauche qui va être poussé en touche par les Libournais. Ça va être équilibré ce match hein. De toute manière, on le disait, deux clubs qui ont la tradition de la Coupe de France chevillés au corps, puisqu'ils ont été dans leur histoire quart de finaliste de cette compétition. Bergerac, c'était en 2021.
Attention, face à face, Amine Salama à nouveau face au portier de Dinan. Est-ce qu'il va trouver le cadre? Non, finalement il était vraiment excentré, il n'a pas réussi à mettre le deuxième but pour Reims. Mais attention à ce ballon récupéré, une nouvelle possibilité, pourquoi pas pour le buteur qui va frapper. Oh, ça rentre avec l'aide du poteau. Et deuxième but pour Mamadou Diako pour le Stade de Reims. Après 8 minutes seulement, le break est déjà fait. On le sait pour les amateurs. Il faut tenir le plus longtemps possible. Il faut tenir le plus longtemps possible, Roland. Et bien là, 8 minutes, et voilà, déjà, c'est quasiment plié, malheureusement, pour cette équipe de Dinan Léon avec ce doublé signé Mamadou Diako.
Ouais, c'est dur, Roland, à ce moment-là pour Dinan, mais forcément, c'est vrai que le but est de tenir le plus longtemps possible. Hey, la Reims est efficace et on sent que dès qu'ils accélèrent un petit peu.
Je ne vais pas toujours parler de la même chose, mais le fait de ne plus avoir la prolongation. Le club supérieur est au courant aussi, donc ils perdent pas de temps. Ils démarrent le match comme s'ils perdaient 1-0 qu'il fallait qu'ils égalisent à tout prix. Et là, c'est sûr que le room d'observation, ça a disparu.
Mais c'est pas plus mal aussi, ça nous offre du spectacle, mine de rien.
Oui, peut-être, mais bon.
Non,
mais
je te sens pas
court. En plus, coach, c'est vraiment une équipe. C'est une équipe qui, en championnat, est très joueuse et qui avait prévenu, nous, on va jouer, on va aller de l'avant. Et effectivement, dès les premières secondes. Et voilà, alors les ballons en profondeur, là, ça va trop vite. Hein. Amine Salama, il déboule côté droit et il fait la différence. Il prend 1 mètre, il prend 2 mètres et derrière, il peut servir Diakon. Ça fait donc 2-0 après 10 minutes ici à Dinan.
Ouais, ça se passe bien pour un pensionnaire de Ligue 1, ça se passe bien pour l'autre pensionnaire de Ligue 1 sur les pelouses. Le tenant du titre, Toulouse, qui est sur la pelouse de Chambéry, ici, Edouard.
Ouais, 1-0 avec le but d'un homme venu du froid, c'est normal, il fait très froid ce soir ici en Savoie. Nathan Skita qui a marqué donc le but à la 7e minute pour être précis. Alors il y a eu un grand moment de passe pour les Chambériens qui essayaient de construire, mais là ils sont dans un temps faible. Mais Braillon là-bas qui va permettre, non, qui va pas réussir à donner le ballon en 6 mètres, mais on va pouvoir se relancer avec Scarantino des Savoyards là qui vraiment se débrouille très très bien sur cette pelouse hybride. Alors ils n'ont pas l'habitude de jouer leur match de National 3. Vous parliez tout à l'heure de Feur et de Saint-Priest qui s'affrontent dans la Loire. Et bien, ces trois clubs sont dans la même poule de National 3, et vous rajoutez la Duchère qui jouait hier contre le Puy. Vous imaginez la poule de National 3 qu'il y a dans la région. C'est quatre équipes qui sont dans la même poule donc de National 3, et cette équipe de Chambéry qui est pas trop mal bien placée, qui l'année dernière devait se relancer en R1 hein, puisque cette équipe descendait de National 3 mais était repêchée au dernier moment. Et vous voyez le foot, ça va très très vite. Ils devaient jouer en régional et finalement ils sont en National 3. On leur prédisait une dernière place en National 3, mais ils sont bien placés, et puis surtout ils sont 32e de finale après avoir éliminé notamment Grenoble qui avait d'ailleurs ouvert le score à la 7e minute le mois de décembre dernier. Mais derrière il y avait eu égalisation chambérienne et une séance de tirs au but. Bon, peut-être que ça va être ce scénario. En tout cas, les Chambériens n'ont absolument pas abdiqué avec Silla qui va monter sur le côté droit, peut-être le centre, il va prendre tout son temps pour recentrer le ballon qui est dégagé en deux temps par les Toulousains, mais ils perdent ce ballon. Ça va revenir dans les pieds de Silla sur le côté droit. On s'organise, on est avec Martino au 20 mètres. Martino qui va gagner son duel, le ballon qui arrive vers Scarantino sur le côté gauche. On n'a pas trop de solution là pour le numéro 11 chambérien, mais s'il va essayer de combiner avec Martino qui pour centrer, mais finalement c'est le défenseur toulousain. Eh ben non, finalement il a le dessus, le défenseur toulousain, mais l'arbitre indique qu'il a fait faute et du coup ça va nous donner un coup franc, une sorte de mini corner comme on dit à la 14e minute. Toulouse qui mène 1-0. Flora, tu me dis si on suce
ouais, on va le suivre parce qu'on sent qu'un coach pour les petites équipes aussi, les coups de pied arrêtés c'est le moyen peut-être. On sait jamais ce qui peut se passer à ce moment-là, une tête, un pied qui traîne, ça peut faire la différence.
Allez, avec ce corner, dans ce corner, oui, on est presque sur la ligne de corner. Donc, c'est vraiment un mini corner, puisque ce ballon est entre la surface de la ligne de la surface de réparation et la ligne de touche. 15 minutes de jeu, 1-0 donc pour Toulouse. Et l'occasion pour. C'est Rémi Jacquet qui est. Non, c'est Martino qui est à ce coup franc sur la ligne de corner. Ce coup franc, le ballon qui est dans la surface de réparation prolongée, mais dégagée de la tête par la défense centrale toulousaine. Un deuxième ballon qui va revenir. Ce deuxième ballon, est-ce qu'il va être profitable au Savoyard? Oui, mais on va repasser par presque le gardien de but, Ostrovski. Neveu d'ailleurs, parce que tout à l'heure on parlait d'un joueur de famille, et ben là c'est le neveu de Stéphane Ostrovski, pour une autre génération qui était un basketteur notamment, qui est passé par Le Mans ou encore l'Accro à Lyon. 1-0 donc pour Toulouse. Ici on a dépassé le quart d'heure de jeu.
Allez, le temps, le score aussi du côté de Dinan face à Reims, Pierre-Yves.
13e minute, 0 pour Dinan et 2 déjà pour Reims grâce à un doublé de Diacon.
Ouais, allez, on va retrouver Nicolas Paul Orsi dans le sud-ouest pour ce Libourne, ce Bergerac-Libourne plutôt, dans le bon sens.
14 minutes de jeu, 0-0 entre Bergerac et Libourne. Ça pousse pour les Bergeracois. Il y a une frappe de Hicham Mlab qui est passée au-dessus du but. Il se procure pour l'instant les meilleures situations. Et là, Pierre Laborde qui vient, le gardien de Bergerac, se sortir du pressing libournais avec une petite passe osée entre les deux joueurs de Libourne qui étaient venus harceler le gardien. Récupération des Libournais. Pour l'instant, voilà, on est en place. On se livre pas trop. On s'observe un petit peu. Ce sont deux équipes qui devaient jouer en championnat et finalement, le match a été reporté. Donc voilà, on se jauge.
Découvre aussi.
J'ai envie de te dire. Ouais, alors même si les joueurs des deux équipes se connaissent par cœur, hein, oui. Ils sont amis, ils ont beaucoup bourlingué entre Bergerac, Tréissac, Libourne. C'est vrai que dans le coin, voilà, il y a pas mal de joueurs qui ont écumé ces deux clubs. Attention à cette belle récupération, la tentative de lob lointaine de 40 mètres qui va être captée par Overmandanda. Il y avait de l'audace là dans cette tentative, le quart d'heure de jeu ici à Bergerac, 0-0.
Allez, on va faire le point aussi sur les trois autres matchs qu'on suit dans cette 32e de finale avec toi, Johan.
Et Laval qui mène toujours 1-0 à Dieppe. C'est Bobichon qui a marqué. Je vous ai dit Vargas tout à l'heure, tête plongeante d'Antonin. Bobichon à la 8e. Et le but à l'instant de Saint-Priest sur la pelouse de Feur. Les deux pensionnaires de National 3 qui évoluent dans le même groupe. C'est Simi qui a marqué pour Saint-Priest qui mène donc 1-0 à la 17e. Et sinon, pas de but entre Louhans-Cuiseau et Rouen. 0-0, 18e minute de jeu.
Allez, 17h47 sur AMC. L'intégral foot revient tout de suite avec Coach Courbis pour suivre la suite de cette 32e de finale de la Coupe de France. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Flora Moussi.
Les 32e de finale de la Coupe de France, ça se poursuit sur RMC. Il est 17h50. Merci d'être avec nous dans l'Intégral Foot. On est avec Coach Courbis et on suit évidemment les clubs de Ligue 1, notamment et le tenant du titre Toulouse sur la pelouse de Chambéry. Edouard, c'est bien parti pour le TFC. Hein.
Oui, ils ont failli doubler la mise. Ils mènent 1-0. Nous en sommes à la 19e minute avec ce but de Nathan Skita. C'était à la 7e et à l'instant, Soiseau là, qui a bien récupéré un ballon. Il y avait une belle combinaison sur le côté gauche et en demi-volée à hauteur des 20 mètres. Il a tiré, mais c'est passé juste à côté. Et un tibia savoyard a détourné le ballon. Ça nous donne un corner. Toujours 1-0 ce ballon. Pris par Ostrovski, mais mal négocié. Une deuxième balle en hauteur. Finalement, il y arrive. Joseph Ostrovski, là, a récupéré le ballon et je me suis fait un petit peu taper sur les doigts par un certain Stephen B, spécialiste du basket, parce que voilà, j'ai oublié de citer pour donc l'oncle de oui. Joseph Ostrovski, Stéphane Ostrovski, c'est bien évidemment et surtout le CSP Limoges. Voilà. J'ai oublié de
citer. Il est à l'écoute d'RMC, Steve.
Ah oui, il est à l'écoute. Et là, le texto est vite parti, je peux te dire. Et donc, je lui ai promis de faire 15 ponts.
Alors que tu avais fait l'effort en plus. Tu avais la référence basket et tout. Franchement, il est
ouais,
dur.
Ouais. Non, mais
et tu passeras à la compta, Edouard. Hein.
Exactement. Je sais que. Voilà. Mais il faut être précis. Donc, c'est vrai, voilà, quelqu'un qui est né à Bron. Voilà, je cite l'Accro Lyon. Je cite d'autres clubs plutôt lyonnais. J'ai pas oublié Limoges. Donc, désolé. voilà, Stéphane, j'espère que je vais pas. Tu vas me dire, bon, les 15 pompes, je les fais pas. Allez, toujours 1-0 pour. J'ai essayé, faut toujours essayer. 1-0 donc pour Toulouse, 21 minutes, mais ça va beaucoup mieux pour les professionnels. Ils avaient mené un petit peu, on va dire, contre le cours du jeu sur la seule action avec Skita à la 7e minute. Derrière, les Savoyards avaient l'essentiel du ballon, mais là, on sent qu'il y a un coup de moins bien pour les jaunes et noirs qui sont quand même menés 1-0 et on a bien failli avoir donc le deuxième sur la tentative de Suazo. 1-0 donc, 21 minutes de jeu, 1-0 pour Toulouse.
Autre club de Ligue 1 sur les pelouses et pour qui ça se passe bien aussi, c'est Reims face à Dinan, Pierre-Yves.
Oui, complètement. 2-0 après 19 minutes. Les Rémois ont déjà fait une grande partie du chemin. Faudrait pas prendre un but, évidemment, parce que là, ça pourrait relancer cette équipe. Mais quand je vois encore ce qui se passe à l'instant sur le terrain avec un contre mené côté gauche, ah, c'est mal joué. Ça va être récupéré là, sans trop de problèmes par le porteur, cette équipe de Dinan. Et il y a un garçon qui fait un super match pour l'instant. Eh bien, c'est Diacon. Double buteur Mamadou Diacon. 18 ans seulement, il a fait 4 petites apparitions en Ligue 1 cette saison, 52 minutes de jeu, et bien quand il y a du vide il se remplit, et comme il y a beaucoup d'absents du côté de Reims, et on en profite du côté de Will Steel, pour faire jouer les jeunes, et ça marche, puisque Diacon fait pour l'instant une très bonne entame avec un doublé, 2-0 pour Reims face à Dinan après tout juste 20 minutes.
Ouais, c'est ça aussi, coach, l'avantage de cette Coupe de France, c'est de pouvoir faire jouer des jeunes joueurs, ouais, pouvoir tester d'autres joueurs aussi.
Il faut pouvoir aussi s'apercevoir que finalement l'effectif, il est pas mal du tout.
Ouais,
autant en qualité qu'en quantité.
Du côté de Reims, effectivement, pour Will Steel, ça va. Il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Comment ça se passe pour ce petit derby entre Bergerac et Libourne, Nico Paul Orsi?
J'aurai le temps de faire les pompes d'Edouard, moi. Parce
c'est
que c'est pas fou, quand même. Ouais, j'aurai le temps. J'ai pas la place, mais j'aurai le temps. Parce que ça se passe pas.
Non, la punition pas est annulée hein, par Stéphane. Donc,
très bien. Si tu veux les 21 minutes de jeu, en tout cas.
Mais fais-les quand même, ça te fera du bien.
Ouais, c'est vrai. Non, ouais, je suis pas rouillé, ouais, t'as raison, je pourrais. 0-0, non, c'est pas incroyable. Le jeu est haché. L'arbitre Mickaël Lesage qui a pas mal d'interventions à faire et on a du mal à se projeter vers l'avant. Deux équipes très homogènes, bien organisées, mais qui ont du mal à se projeter. Il y a eu une tentative de Castera là pour Libourne, très lointaine, à 30 mètres du but. Mais c'est maigre. Dégagement de Pierre Laborde, le gardien de Bergerac, qui va essayer de trouver Hicham Mlab. C'est sec, le capitaine de Libourne, qui gagne ce duel. Diakité sur le côté gauche pour les Girondins, qui va essayer de trouver son excentré. Ça c'est plutôt bien fait, qui avec un crochet arrive à échapper à la défense de Bergerac, et donc du coup il y a une belle récupération pour les Libournais avec une nouvelle fois Sec qui va dégager, enfin plutôt dévier le ballon sur le côté droit. Castera en relais, on a 40 mètres là, des buts de Bergerac, et on se déploie, on explose sur le côté droit, mais ce dernier ballon est trop en profondeur. 0-0, 22 minutes de jeu, il y a des erreurs techniques.
Ouais, c'est aussi le niveau aussi peut-être qui veut ça, Nico. On va retourner du côté de Chambéry avec Edouard Jay pour ce match du tenant du titre Toulouse, qu'on suit évidemment avec attention avec ses résultats en Ligue 1 qui sont mauvais. Est-ce que tu sens une équipe toulousaine un peu plus en confiance quand même que sur ces derniers matchs de Ligue 1?
Oui, clairement le but les a mis dans de bonnes situations. En tout cas, il tente un petit peu plus de choses, même si là, bien évidemment, il suffit de dire ça pour qu'il y ait une montée de Braillon. Donc c'est un défenseur chambérien, et Nicolas Pujol aussi qui essaye de tenter des choses. Là, franchement, cette équipe de National 3 produit du jeu avec Hervé Ivars, son nouvel entraîneur, qui a un effectif très très jeune. Ce sont tous des joueurs pour la plupart issus de la région et qui ont de nombreuses années de licence dans le club, le centre là de Scarantino, mais qui trouve personne. Mais c'est vrai que les Toulousains sont quand même un petit peu plus en confiance avec ce but, et ils ont eu une ou deux occasions. Ils se disent que voilà, s'ils marquent le deuxième assez rapidement, ils peuvent peut-être faire un grand pas vers la suite. Mais 1-0, c'est pas la sécurité totale pour une équipe de Toulouse qui a eu des revers, qui a eu un revers il y a 2 ans de cela dans la Coupe de France, on va dire covidée, qui avait été où ils avaient perdu à Rumilly en quart de finale de la Coupe de France. Mais l'année dernière, ils avaient gagné, avant d'aller en finale, ils avaient gagné à Annecy, souvenez-vous. Donc la région leur porte une fois bonheur, une fois malheur, mais là pour l'instant tout va bien.
Tu sais très bien aussi qu'en cas d'égalisation, tu vas au tir au but.
Oui, exactement. Et bien là, on a une belle occasion avec Scarantino qui va récupérer le ballon. Il était difficile à l'entrée de la surface de réparation, pas trop de soutien, donc il va repasser par l'axe par Rémi Jacquet. Le compte, le tir, mais ça sera à côté. Il s'est essayé des 30 mètres là, Rémi Jacquet, mais finalement c'est à côté. Voilà les Chambériens qui n'ont vraiment, vraiment pas abdiqué dans cette partie, même si le score est à l'avantage des professionnels, 1-0, et qu'on sent que ceux-ci peuvent à tout moment faire mouche et marquer le but du break. Mais pour l'instant, de break, il n'y en a pas. On en reste à 1-0 à la 26e. 1-0
pour Énorme occasion pour Bergerac. Énorme occasion là pour Bergerac. Ouais, 24e minute de jeu, 0-0. Elle est là, la double occasion même pour Bergerac sur coup de pied arrêté, un corner frappé de la droite vers la gauche. Ce ballon est dévié, il passe devant le but et derrière il y a une deuxième chance. On remet ce ballon dans la boîte et il y a un Bergeracois qui reprend ce ballon de la tête. Belle parade là d'Over Mandanda qui se couche bien. Il est très explosif ce gardien. Moi je l'avais un peu connu au Girondins de Bordeaux quand il évoluait avec la réserve, quand il était chez les jeunes. C'est pas un grand gabarit, c'est d'ailleurs ce qui lui faisait défaut par rapport notamment à son frère Steve pour évoluer au plus haut niveau. Par contre il est très très bon sur sa ligne, il est très explosif. Donc grosse occasion là pour Bergerac qui domine quand même hein, malgré tout au niveau des occasions ce début de mi-temps à l'image de cette récupération de Jebao pour Hicham Mlab, le numéro 10 de Bergerac qu'on voit énormément là. Il élimine un, deux joueurs, il est à 25 mètres, il va tenter de mettre un ballon dans la profondeur avec son pied gauche mais c'est manqué. 25 minutes de jeu, 0-0.
On va aller du côté de Reims. Non, du côté de Dinan pour savoir comment s'en sort Reims. Est-ce qu'on est déjà dans la gestion ou pas, Pierre-Yves?
Oui, c'est ça, je comprends ton lapsus. T'as l'impression que ça joue à Reims puisqu'il y a 2-0 au bout de 25 minutes. Mais non, ça joue bien à Dinan. Oui, on est forcément un petit peu dans la gestion. Et puis, comme cette équipe de Dinan, maintenant, déjà qu'elle jouait haut dès le début du match, elle est obligée maintenant de continuer à jouer haut pour essayer de marquer ce but. Et d'ailleurs, elle joue plutôt bien. Eh bien, ça offre des opportunités en contre, évidemment, avec des joueurs rapides du côté rémois. Les joueurs de Dinan qui, il y a 2 ans, avaient affronté au même stade de la compétition Brest et avait réussi après un 0-0 à emmener Brest jusqu'à une série folle de tirs au but, 13-12, mais il s'était incliné. Là ça va être plus compliqué désormais. À nouveau un contre avec dans la profondeur bien servi Amine Salama qui se retrouve un petit peu excentré et la défense dinanaise qui va pouvoir se replacer. Teddy Thomas quand même qui a une possibilité côté droit mais la porte s'est un petit peu fermée. 26 minutes de jeu, 0 pour Dinan, 2 pour Reims.
On va faire le point sur tous les scores, sur toutes les pelouses qu'on suit dans ces 32e de finale de la Coupe de France. Le temps, le score du côté de Chambéry face à Toulouse, Edouard Jay.
28 minutes de jeu et le but de Nathan Skita, le Finlandais qui donne pour l'instant l'avantage à Toulouse.
Bergerac face à Libourne, les deux pensionnaires de National 2, Nico Paul Orsi.
La 27e minute, 0-0.
Et du côté, donc, on refait le point avec toi, Pierre-Yves. Le temps, le score entre Dinan et Reims.
27e minute, Reims qui mène 2-0, un doublé de son numéro 7, Mamadou Diakon.
Et ensuite, 3 autres matchs aussi, avec notamment le pensionnaire de Ligue 2, Laval, Johan.
Ouais, le 4e de Ligue 2 qui mène toujours 1-0 à la demi-heure de jeu sur la pelouse de Dieppe, le but de Bobichon à la 8e. Saint-Priest mène également 1-0 à la 29e sur la pelouse de Feur. Et Louan-Cuiseau, face à Rouen, 0-0, pas de but, et on a passé la demi-heure.
Il est 18h sur RMC. L'intégral foot revient tout de suite avec Coach Courbis. À la suite de tous ces lives, c'est évidemment sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Flora Moussi.
L'Intégral Foot vous accompagne jusqu'à 19h. Ensuite, ce sera Bartoli Time avec Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet avec la ministre des Sports des Jeux Olympiques et Paralympiques en invité Amélie Oudéa Castéra. Donc, restez bien sur RMC. Ce sera à 19h. En attendant, il est 18h02 et on vous accompagne avec Coach Courbis dans l'Intégral Foot pour suivre les 32e de finale de la Coupe de France et notamment le tenant du titre Toulouse avec un corner pour les Chambériens, Edouard Jaïssien.
Oui, corner qui finalement ne donnera rien, détourné par la défense toulousaine. Il donnera quand même une touche pour les Chambériens, des Toulousains qui mènent donc 1-0, mais ils doivent se dire heureusement qu'on a marqué ce premier but dès la 7e minute, parce que c'est vrai que dans le jeu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est difficile.
C'est compliqué. Coach, on sent aussi que c'est une équipe toulousaine là, qui est en manque de confiance. Hein. Clairement, les automatismes, ils ne sont pas là.
Ils ont un match là pour la retrouver, cette confiance.
Alors dis-nous tout, Edouard, mais je vois depuis tout à l'heure là, le coach, la Carles Martinez Novel sur le bord de la touche. Alors il est toujours très expressif, mais là on sent, il essaie de donner des consignes à ses joueurs. Je ne sais pas si tout le monde comprend bien les gestes qu'il fait. Hein.
Exactement, et alors ça doit le réchauffer, ça c'est oui, personnellement plus. Ça doit l'aider, mais en tout cas ça doit pas aider ses joueurs. Je vous le disais, donc qui mène 1-0 hein, avec ce but de Skita à la 7e minute, mais l'essentiel du jeu est fait par cette équipe de National 3 hein. C'est quand même assez incroyable avec cette pelouse qui dans l'absolu, devrait avantager les professionnels, puisqu'elle est parfaite. C'est une pelouse synthétique. Alors, bien évidemment, ils ne sont peut-être pas forcément habitués à cette pelouse synthétique. Les Chambériens non plus, parce qu'ils ont fait des entraînements ici même et c'est leur troisième match. Hein. Il y a eu le match de Coupe de France, mais il y a eu aussi un match de championnat, d'ailleurs, face à Saint-Priest qui joue en 32e de finale actuellement. Mais ils ne sont pas habitués à cette pelouse synthétique et ça devrait notamment les avantager au niveau technique, parce que là, normalement, il n'y a aucun geste qui devrait être échappé à cause du terrain. Mais là, c'est un petit peu difficile. Il suffit de dire ça pour revoir Vincent Siro qui va peut-être servir là dans le... Oh, ça sera un tir juste au-dessus par Tij Dalinga qui finalement a trouvé le dessus de la... non, c'est Yanis Begraoui, pardon, qui sur le coup avait été bien lancé par son capitaine. Mais au final, sa balle est imprécise. Elle va au-dessus de la transversale. C'est quelques actions qui sont rares, peut-être un petit peu plus directes pour les Toulousains qui ont du mal quand même à construire, à l'image de cette balle rapidement récupérée par les Chambériens qui vont pouvoir repartir avec Tchapchet sur le côté gauche. Mais toujours ce score donc pour Toulouse, 1-0, 34 minutes de jeu dans cette enceinte ici à Chambéry, dans le froid avec une pluie qui a cessé.
Coach, là, on est du côté de Toulouse, comment on fait pour essayer de redynamiser un peu tout ça? On a l'impression qu'ils ont presque marqué trop vite finalement.
Ben oui, mais bon, là maintenant, ils ont marqué trop vite, mais ils ont marqué.
Ils ont marqué quand même. Ouais.
Donc, on peut s'attendre aussi à un contre, puisque l'adversaire maintenant est obligé de faire des efforts et de se découvrir. Donc, il y aura la possibilité pour Toulouse de faire ce qu'on peut appeler le petit break, parce que 2-0, c'est le petit break. Le gros break pour moi, c'est 3-0.
C'est 3-0. Très bien. Le petit break, en tout cas, Reims l'a fait pour le moment face à Dinan, ouais. Pierre-Yves Leroux, même si on a vu une opportunité quand même.
Exactement. Anthony Vermeil qui a mis un ballon au ras du poteau, le pied bien ouvert. J'ai vraiment failli interrompre.
Et ça fait deux.
J'ai cru.
Ah, bah, tu vois comme
ça
quoi.
Ça fait deux sur ce centre.
Pour Toulouse, vas-y, Edouard.
Avec ce centre venu de Dalinga et ça fait 2-0. Je crois que c'est Skita qui est allé récupérer le ballon. En tout cas, il y avait deux Toulousains. Si vous pouvez me préciser, mais en tout cas, ça fait 2-0. Hein, à la 35e minute avec Skita, voilà, qui confirme, le speaker confirme ce que j'avais vu, même si c'est un petit peu loin. Donc 2-0, donc le doublé. Il fallait un homme qui vient du froid dans la froideur savoyarde. Et bien, Nathan Skita fait le doublé et double la mise. Coach, le petit break est là à la 35e pour les Toulousains sur c'est pas contre le cours du jeu, mais en tout cas dans le jeu
beaucoup de bien, pas seulement exactement. Pour le match de ce soir,
exactement,
mais bon, pour retrouver une certaine confiance qui a disparu depuis une dizaine de matchs.
Voilà, et ça fait donc 2-0. On a du mal au niveau du tableau d'affichage à mettre.
On a du mal à y croire, pour... en fait. C'est ça qu'on
On a du mal à y croire, et du coup, on est en train de difficilement de mettre le 2-0. Mais en tout cas, voilà, Toulouse mène bien 2-0 ici à Chambéry face à cette équipe de National 3. Ça va être difficile d'inverser la tendance pour les Savoyards.
Ouais, dommage pour eux, parce que c'est vrai qu'il y avait du répondant en face, quand même, face aux Toulousains. On était avec Pierre-Yves Leroux, donc pour Reims, tu nous disais que Dinan a malgré tout des opportunités. Hein. Ils ont ballon d'ailleurs.
Franchement, oh, ça joue très bien.
L'énorme erreur, 1-0, 1-0 pour Libourne. L'énorme erreur de Pierre Laborde, le gardien de Bergerac, qui s'est complètement déchiré là sur son contrôle. Il a essayé de faire un crochet, il élimine l'attaquant Castera de Libourne qui vient le presser, mais derrière il panique à la relance et il offre un ballon dans les pieds à Madou Soané qui plus grand chose à faire. Il une touche de balle, il pousse son ballon et derrière il a le but grand ouvert. Ça fait 1-0 pour les Libournais contre le cours du jeu. Puisqu'ils étaient dominés, il reste 10 minutes dans cette première mi-temps.
Ouais, ça fait mal. On parlait de bons gardiens, coach, tout à l'heure. On a vu Brice Samba faire des arrêts de dingue dans la séance de tir au but face à Monaco. Là, cette erreur-là, quand même, elle est difficile déjà pour lui, parce que ça fait mal dans la tête. Mais là, pour son équipe, ça plombe un peu quand même.
Et si tu veux, c'est un petit peu une époque.
On essaye de relancer.
Il faut arriver à vivre, et certains gardiens ont du mal à la vivre. C'est de repartir depuis derrière, et que le gardien. C'est presque comme un joueur de champ. Et là, il faudra vraiment argumenter pour arriver à me faire changer ma vision des jeux. Un gardien, ça reste pour moi un gardien. Et la principale qualité d'un gardien, c'est pas son jeu au pied, c'est la façon qu'il a de pas encaisser des buts. Et après, si en plus de ça, il peut aussi bien relancer, d'accord, pas de problème. On va le faire aussi tirer les coups francs, les corners. on va s'arranger, mais évidemment que je plaisante. Donc là, c'est sûr que, appelons ça une erreur, oui, une erreur de notre époque.
Ouais, qui coûte cher, mine de rien.
Là, il aurait mieux fait d'envoyer un missile.
Ouais, voilà, ça fallait dégager. Fallait pas se poser de questions.
Il aurait mieux fait d'envoyer une sonde.
Ouais, fallait pas se poser de questions. Et là, ça fait mal, du coup, pour Bergerac. Effectivement. Pierre-Yves, on va y arriver avec toi. J'ai l'impression qu'on n'a pas envie de.
Oh, légalisation! Légalisation dans la foulée! Axel Tressens, superbe but là pour le coup. On n'est pas sur une erreur de gardien avec ce centre dans la boîte et le deuxième ballon qui retombe à 20-22 mètres à l'extérieur de la surface de réparation. Il le contrôle, il frappe fort, un peu enroulé et c'est sous la barre de Vermandanda qui avait été très bon depuis le début du match. Bergerac répond deux minutes après l'ouverture du score de Libourne. Un partout. Et vous l'avez entendu, ici c'est Bergerac.
Réaction express, coach. Là pour le coup, on se disait, est-ce que ça va les plomber dans la tête, cette erreur du gardien? Bah non, la réponse très très rapide. Il n'y a pas mieux de toute façon que de revenir aussi vite.
Ça les a réveillés.
Ouais, c'est ça, ça les a réveillés. Mais c'est vrai que tu le disais, c'était un peu contre le cours du jeu de toute façon, Nico. Donc finalement, l'égalisation, elle est plutôt logique.
Oui, oui, égalisation plutôt logique. Franchement, ils ont dominé, ils ont
très
eu de grosses occasions.
Hein.
Ouais, le but est très beau. Techniquement, c'est un bon joueur. Hein. On l'a déjà vu, Axel Tressens, quand on est venu commenter les 32e de finale de Bergerac. C'est un bon petit joueur, racé, élégant quand on le voit jouer. Et là, pour le coup, Mandanda qui faisait un très bon début de match et qui permettait à Libourne de rester dans la partie et obligé un peu de s'incliner sur cette frappe puissante sous la barre.
Allez, coup franc
pour Dinan.
On y va avec toi, Pierre. J'allais bien te voir.
Je saisis l'opportunité.
vas-y.
Coup franc pour Dinan. Et les Dinanais qui sont menés 2-0 à 8 minutes de la pause. Mais ça, ce coup franc, il peut permettre, pourquoi pas, à cette équipe de revenir à 2-1. Sofiane Valla qui va le frapper dans un instant. Vous entendez à côté de moi les 2500 supporters bretons qui poussent derrière et qui ont eu quelques occasions de se réchauffer. Notamment, je vous le disais tout à l'heure, avec cette frappe d'Anthony Vermet bien enroulée qui est passée juste à côté. C'est parti pour le pied droit de Valla au point de pénalty. Il y a du monde, il y a une tête, mais ça va passer au-dessus. La tête, me semble-t-il, de Mamadou Sam, ouais, qui passe au-dessus. Début gardé par Alexandre Oliro. Il reste 7 minutes ici, mais en tout cas, c'est plutôt plaisant. Ils sont menés 2-0. Certes, les Dinanais, mais ils continuent à faire les efforts. Et pourquoi pas marquer ce but. Ils auront des occasions, tant que Reims ne met pas le troisième, de mettre encore un petit peu la pression sur cette équipe rémoise.
Ouais, on sent, hein, tu nous as parlé de plusieurs opportunités tout à l'heure, hein, pour les joueurs de Dinan, on sent qu'ils n'ont pas lâché et finalement ils ont raison, hein. Si tu reviens à 2-1, ouais. Coach, on est toujours, hein, le troisième but.
Absolument, le troisième but, si c'est un 3-0, évidemment que là c'est plus compliqué.
Ouais.
Mais un 2-0 hier, qui passe à 2-1, on sait que 9 fois sur 10, c'est pas le score au final.
C'est pour ça que hier le coach de Avoine Chinon, Armand Rimbaud, en voulait beaucoup à son équipe parce qu'ils étaient menés 2-0 et ils ont eu un pénalty pour revenir à 2-1 qu'ils ont raté alors qu'ils se remettaient dans le match grâce à ça. Et je pense que Dinan peut avoir une opportunité peut-être sur cette fin de mi-temps. Il reste 7 minutes encore avant la pause.
Ouais, peut-être aussi que ça peut être l'opportunité pour Chambéry, hein, face à Toulouse, Edouard, de marquer ce petit but et de revenir dans le match, hein.
Oui, pour l'instant ils sont menés 2-0, mais ils ont absolument pas abdiqué. C'est le cas depuis le début. Et là, il a fallu que Alex Dominguez sorte une superbe parade sur un tir de Tchatchet, Yomi Tchatchet, qui s'est essayé dès 20 mètres. Et la parade était jolie là, parce qu'il fallait aller chercher ce ballon presque au ras du poteau. C'était difficile comme geste technique, mais il l'a bien réussi. Et nous étions à la 40e minute. Là, on aurait pu avoir le 2-1, ce fameux troisième but dans 2-0, mon cher coach, qui aurait pu relancer. Mais pour l'instant, on n'est que sur du conditionnel parce qu'il n'y a pas eu ce but, parce qu'il y a eu cette parade du gardien toulousain qui permet à son équipe donc de rester sur ce joli et petit break de 2-0 avec le double, un buteur qui a marqué donc deux fois. C'est le même buteur, Nathan Skita. Donc 2-0, il reste 3 minutes dans cette première période où les professionnels ont joué deux ou trois fois plus direct. Et sur ces deux ou trois fois plus direct, eh bien, ils ont marqué deux buts, alors que les...
Attention, inquiétant, je tire dans la surface de réparation, la frappe de l'attaquant Dinanais, mais ça passe à droite, début d'Alexandre Oliro. En voilà des occasions pour Dinan, toujours mené 2-0, mais qui se rapproche un peu plus du 2-1.
On se rapproche, mais toujours 2 à 0 pour le stade Rémois face à Dinan. 2 à 0 aussi pour Toulouse face à Chambéry. Un peu plus tôt, si vous étiez sur AMC, vous avez vécu une séance de tir au but très tendue, très longue aussi, entre Lens et Monaco, et qui a vu finalement la qualification monégasque pour les 16e de finale. Jean Bommel était au commentaire pour AMC. Il a toujours de la voix. Salut Gibaud.
Salut Flora. Salut coach. Bonsoir à toutes et à tous.
Fin moins heureuse du coup pour les Lensois, mais quelle séance de tir au but quand même. Il y en a presque eu deux dans une finalement, parce que la première partie était catastrophique avec mais finalement des beaux arrêts aussi de Brice Samba. On peut voir les choses comme ça.
Mais le match en lui-même était assez incroyable, parce que Monaco menait quand même 2 à 0 et puis Lens est revenu à 2-2. Il y a eu 9 occasions nettes pour les Lensois en seconde période, et c'est là que ça ils auraient dû faire la différence, c'est ce que disait Francaise en conférence de presse. Et puis c'est vrai qu'il y a cette séance de tir au but, il a fallu 9 tireurs de chaque côté, et puis c'est terminé 6 à 5. Alors c'est vrai que le début était assez catastrophique, parce que au bout de 5 tireurs, il n'y en avait que 2 qui avaient réussi de chaque côté, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que Brice Samba a brillé, les Lensois notamment Fulgini a tiré au-dessus, ou Medina Labarre,
ouais,
mais
ratés,
celui
ouais.
Voilà, celui qui a été vraiment très très fort, ça a été Brice Samba, mais ça n'a pas payé. Et puis voilà, il faut aussi dire que le gardien Majeki, le polonais de l'AS Monaco aussi, a été performant, même si c'est vrai qu'il y a une barre et un ballon au-dessus. Mais globalement, voilà, il y a beaucoup de frustration du côté lensois. Puis il y a une chose qui s'est passée et qui était une première, c'est de voir Francaise prendre un carton rouge en fin de première mi-temps, suite à une action où ils estiment que côté lensois qui avait un pénalty sur Eli Wahi poussé dans le dos. Donc il a utilisé le mot honteux trop de trop nombreuses fois, estime Francaise, pour avoir pris ce rouge. Et il a dit derrière en conférence de presse, après le rouge, j'ai dit qu'ils étaient nuls. Voilà, bon, il regrette un peu forcément, mais il y avait pas mal de frustration. Et puis il y a aussi un élément important, ça commence à siffler par rapport à Eli Wahi, qui n'arrive plus à marquer, qui est un petit peu décevant cet après-midi. Et Francaise a défendu son joueur en disant voilà, ceux qui sifflent Eli Wahi ne sont pas très intelligents, donc il soutient totalement son joueur et il dit voilà, c'est pas en le sifflant qu'on va l'aider à marquer des buts et à progresser.
Ouais, c'est vrai qu'on se rappelle que Francaise avait lui-même tensé aussi un peu Eli Wahi, il avait dit qu'il pouvait faire mieux, il l'avait dit dans les médias, on s'en rappelle. Coach, ça fait mal quand même pour Lens, parce que quand on est mené 2-0 et qu'on revient et que finalement on est éliminé au tir au but, dans la tête c'est dur quand même.
Ouais, surtout le cas de tuer ton gardien qui te fait exploit sur exploit et que ça suffit toujours pas pour gagner. Bon, là c'est sûr que il y a plusieurs façons de se faire éliminer. Celle d'aujourd'hui pour Lens, elle est difficile à digérer.
Ouais, c'est vrai que la saison lensoise aussi, il y a toujours la Coupe d'Europe. Évidemment, Gibaud, ça va être chargé jusqu'au bout, mais cette Coupe de France, j'imagine qu'il avait quand même dans un coin de leur tête, mine de rien.
C'est une compétition que le Racing Club de Lens n'a jamais gagnée, donc forcément et on sait que Francaise a fait de belles performances avec le Racing Club de Lens l'année dernière, avec une deuxième place, une Ligue des Champions, et c'est sûr qu'un trophée, déjà l'année dernière il le disait il y a deux jours en conférence de presse, l'élimination contre Nantes, ça lui était resté un petit peu en travers de la gorge, parce que c'est vrai que derrière le tableau était ouvert, hein, il y a eu cette finale entre Nantes et Toulouse et tous les gros étaient sortis. Ça sera pas pour cette année, il y a encore une aventure à faire en Europa League avec barrage contre Fribourg.
En plus c'était à huis clos, non?
Exactement, oui, il n'y avait personne à la Beaujoire.
Su profiter de ça.
Voilà, donc la Coupe de France, ça sera une nouvelle fois pas pour cette année pour le Racing Club de Lens, mais encore c'est. Voilà, il y a l'ADN de toujours revenir. Hein. Rappelez-vous, en Coupe d'Europe ou même en championnat, le nombre de matchs où ils sont menés et ils reviennent.
Ouais. Bon, voilà,
ils ont gardé encore ce mental de revenir et de ne pas abdiquer. Donc, ça, c'est le côté très positif.
Oh, le deuxième but bergeracois ! Superbe coup franc direct ! Signé Chamlab, il était à 20 mètres, très légèrement sur la droite. Et avec son pied gauche, délicieux depuis le début de la partie, on le disait, c'était le plus dangereux du côté de Bergerac. Il va tromper Overmond Danda, frappe sèche au ras du poteau, ça fait 2-1 pour Bergerac alors qu'on venait d'entrer dans le temps additionnel.
Bah, petit bijou celui-là, coach. Hein. Magnifique.
Ah oui.
Magnifique. Tu vois, tu te régales finalement, Nico.
Ah, mais je me régale. Je n'ai jamais douté de ce match. Sachez-le.
Bien sûr. On va remercier Jean Bommel qui était avec nous pour revenir sur cette qualification de Monaco face à Lens au tir au but. Merci beaucoup, Gibo.
À très vite, Flora et coach.
On se retrouve très vite sur RMC. Évidemment, on suit la fin de ces premières périodes dans les 32e de finale. Tiens, corner pour Chambéry face à Toulouse.
C'est pas
Edouard.
Le corner, la tête de Théo Braillon passera largement au-dessus. Fin de première période. Difficile pour les Chambériens au niveau du tableau d'affichage. 2-0 avec ce doublé de Nathan Skita à la 7e et à la 35e minute. Mais dans le jeu, franchement, l'équipe de National 3 offre de bien belles choses. Mais voilà, le jeu plus direct des professionnels pour l'instant fait la différence. Trois tirs cadrés, deux buts. Et juste devant moi passe Damien Comolli. Il a l'air un petit peu plus soulagé que juste avant le match. Bah quand oui. Je l'ai croisé devant lui, Jean-Louis Saint-Bonnet, le président de Chambéry, qui sourit parce que lui, quelle que soit la fin de cette partie, ça sera déjà une belle aventure d'arriver en 32e de finale. Pour l'instant, à la mi-temps, cette aventure 2023-24 s'arrête en 32e. Mais on ne sait jamais, il y a une deuxième mi-temps. 2-0 donc pour Toulouse.
Tout peut se passer encore, effectivement. Merci beaucoup, Edouard. On te retrouve tout à l'heure pour la seconde période. Ça joue encore du côté de Dinan face à Reims, Pierre-Yves.
Oui, et vraiment le constat est le même que chez Edouard, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui joue très très bien, une équipe de National 2, mais le jeu plus direct là aussi derrière moi leur permet de mener 2-0 à la pause dans quelques secondes. Il reste encore une poignée de secondes à jouer ici, et ce qui fait la différence, et les stats sont les mêmes d'ailleurs que pour Edouard, 3 tirs cadrés, 2 buts, l'efficacité aussi pour voilà les joueurs de Ligue 1, ils ont été sérieux dans les premières minutes puisque le doublé signé Diacon a eu lieu à la 5e et à la 8e et c'est la pause à l'instant, mais il reste là aussi un petit peu d'espoir pour les pensionnaires de National 2.
Et 8 ans à Bergerac.
Merci beaucoup Pierre-Yves, on te retrouve tout à l'heure pour la seconde période. Mi-temps chez toi Nico dans le derby du Sud-Ouest.
Ouais, Bergerac qui a renversé Libourne. Libourne avait ouvert la marque, but de Soigné sur une grosse erreur du gardien bergeracois Pierre Laborde. 2 minutes après, égalisation, une grosse frappe sous la barre d'Axel Tressens et puis le coup franc dans le temps additionnel de la première mi-temps, coup franc direct de Hicham Mlab. C'est mérité pour Bergerac qui mène 2-1.
Merci Nico, à tout à l'heure. Le point sur les autres matchs, c'est la mi-temps partout, Johan.
Oui, la logique est respectée avec Laval, pensionnaire de Ligue 2, qui mène 1-0 sur la pelouse de Dieppe, qui évolue en National 3. Rouen, qui est en National, mène 1-0 sur la pelouse de Luron-Cuiseau, National 3. Et dans ce duel de National 3 entre Feur et Saint-Priest, qui sont tous les deux dans le même groupe d'ailleurs, c'est Saint-Priest qui mène 2-1 à la pause sur la pelouse de Feur. Saint-Priest, deuxième de son groupe. Feur 9e, je te l'ai dit, la logique est respectée.
La logique est respectée un peu partout finalement, coach. On voit les clubs de Ligue 1, Toulouse et Reims mener à la pause logiquement, sans être trop dominant même, j'ai envie de dire.
Mademoiselle Coupe de France peut-être se repose un petit peu en ce qui concerne les surprises. Elle attend de voir le match de ce soir.
Ah, le Revel PSG.
Là, je pense que ça sera compliqué pour qu'il y ait une surprise. Mais bon. Il y a quand même eu deux, trois surprises dans ces 32e.
Ouais, et on sent quand même qu'il peut se passer encore beaucoup de choses, surtout dans ces secondes périodes. Rien n'est fait. 18h21, l'intégrale foot revient tout de suite avec coach. Et t'en parlais de ce Revel PSG. Justement, on va vous en parler aussi avec Jeannot Rességuier qui est au commentaire ce soir. Il sera au rendez-vous avec nous dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC, intégrale foot.
Flora Messi.
On est de retour avec coach Courbis sur RMC pour l'intégrale foot. Il est 18h25. On vous accompagne jusqu'à 19h. Après, c'est votre rendez-vous du dimanche soir. Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet avec Marion Bartoli qui reçoivent ce soir la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra. Soyez au rendez-vous dès 19h sur RMC. On est à la mi-temps des 32e de finale de la Coupe de France avec notamment Toulouse qui mène 2-0 sur la pelouse de Chambéry. Même score pour Reims sur la pelouse de Dinan. Voilà pour les clubs de Ligue 1. On vous rappelle les qualifiés un peu plus tôt. Marseille, Lyon, Monaco, tir au but face à Lens, Le Havre et Rennes notamment. Dernier 32e de finale de cette Coupe de France au programme ce soir. Un choc des extrêmes entre le PSG, leader de Ligue 1, et Revel, pensionnaire de Régional 1. Le tout dans le stade Pierre Fabre de Castres. Ambiance de folie à venir avec en plus au commentaire Jeannot Rességuier. Salut Jeannot.
Bonsoir Flora, salut coach, bonsoir tout le monde.
Il est encore un peu tôt, hein, le coup d'envoi c'est à 20h45, mais toi qui es sur place, on imagine que tu as dû sentir aussi dans la ville une atmosphère bien particulière aujourd'hui.
Alors on est à Castres, Revel c'est à 30 km d'ici, Castres c'est le Tarn, Revel, c'est la Haute-Garonne, et ils ont prévu d'arriver là à partir de maintenant, les supporters, la plupart en voiture, et on est au cœur d'un quartier résidentiel, ce stade de top 14 de rugby du CO, du Castres Olympique, le stade Pierre Fabre, du coup compliqué de se garer. Donc ce qui fait qu'autour du stade, on voit plus de piétons, on commence à entendre quelques tambours, on commence à voir quelques supporters de Revel, 9500, 10 000 en tout, puisqu'il y aura 500 supporters du Paris Saint-Germain, mais en fait, l'activité était du côté de l'avenue Charles de Gaulle, c'est-à-dire là où étaient et où sont encore les Parisiens, parce que on les a attendus avec impatience en fin de matinée avec leur avion qui s'est posé sur l'aérodrome, comme vous voulez, de Castres, et ils sont allés s'installer dans leur hôtel. Et là, autant vous dire que entre leur arrivée de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, puis devant l'hôtel, tout l'après-midi, c'était entre 100 et 200 personnes qui étaient devant pour essayer d'apercevoir quelques joueurs. Et Kylian Mbappé a pris le temps, à l'arrivée du bus, de signer quelques autographes.
Quel temps il fait, Jalon ?
Alors, je suis dans la voiture bien au chaud, parce qu'on n'a pas encore l'autorisation d'entrer dans le stade. Et quand je te dis bien au chaud, on est autour de 4 degrés, donc ça va, sauf qu'il y a du vent. Donc on est sur un ressenti au moment du coup d'envoi qui va être autour de zéro.
Donc pas de pluie, pas de neige.
Pour l'instant, non. La neige est annoncée dans le courant de la nuit, si c'était en tout cas confirmé. Il a neigé sur les hauteurs, pas très loin de la montagne Noire, à Lacône aussi. Donc ça veut dire aussi qu'elle n'est pas très très loin, mais ça va être des conditions, on va dire, plutôt normales pour un mois de janvier et pour un 32e de finale de Coupe de France, même si, encore une fois, c'est un stade de rugby qui accueille ce match entre Revel et Paris.
On a senti tout l'enthousiasme de la part des joueurs de Revel au moment du tirage au sort, à cette annonce de l'adversaire, le Paris Saint-Germain. C'est le match de leur vie aujourd'hui, tout simplement, Jeannot.
Oui, non, mais ça, c'est évident. Quand tu sais que tu as la possibilité de te retrouver avec des stars et face à la meilleure équipe du championnat de France, une des meilleures équipes d'Europe, avec des stars, même si toutes ne seront pas là. On rappelle, Dembélé et Marquinhos sont laissés au repos, tout comme d'ailleurs Lucas Hernandez qui est malade. Mais oui, pour des gars qui sont salariés du district du Tarn, commercial, étudiant en STAPS, préparateur de commandes, employé de supermarché, dans les gestions affaires et juridiques, vendeur de crampons, responsable de logistique, tous ces gars-là sont titulaires ce soir et demain au boulot, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Ouais. Donc voilà, c'est tout simplement le match de leur vie. Pourquoi aussi ? Parce que c'est une équipe, c'est un club qui était en Régional 2 la saison dernière, qui est monté cette saison en Régional 1 et qui, pour l'instant, est en tête avec un match en retard dans son championnat. Donc le championnat, tout va bien. Là, c'est la fête. C'est de retrouver un 32e de finale, ce qui n'a été plus arrivé depuis 1961. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Christophe Pélissier, l'entraîneur d'Auxerre, qui était à Nice hier soir, est en train de rejoindre Revel pour récupérer son papa, qui était le gardien de but à l'époque et qui pourrait peut-être participer à cette rencontre indirectement, en étant celui qui pourrait donner le coup d'envoi du match. Donc voilà, c'est un véritable événement pour Revel, même si, encore une fois, ce match se joue à Castres, parce que le stade à Revel ne pouvait pas accueillir un 32e de finale et encore moins le Paris Saint-Germain.
On va parler justement de cette équipe du PSG, Jeannot, parce que Revel, c'est un match presque de gala. Pour Paris, c'est une victoire impérative ce soir, parce que 2 ans de suite que les Parisiens sont éliminés en 8e de finale, c'est pas possible de revivre une catastrophe comme ça.
Alors c'est vrai que cette équipe du Paris Saint-Germain, et Luis Enrique a été clair, l'a dit, l'entraîneur espagnol, ils veulent gagner des trophées. Ils ont gagné le trophée des champions contre Toulouse, c'était mercredi dernier. Ils veulent regagner cette Coupe de France, eux qui sont vainqueurs de ce trophée au nombre des victoires obtenues. Mais après, voilà, ça peut être un match piégeux. L'an passé, en 16e de finale, c'était, souvenez-vous, à Lens, contre Pays de Cassel, une équipe de R1, il s'était imposé 7-0 avec un quintuplé de Kylian Mbappé. Donc, s'ils sont sérieux, s'ils sont appliqués, logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est plutôt le problème de savoir comment les Revellois vont aborder cette rencontre, parce que, de la part des Parisiens, on ne peut s'attendre qu'à un match sérieux, parce que s'ils sont sérieux, bien évidemment, ils n'auront aucune mauvaise surprise dans cette soirée ici à Castres.
Aucune inquiétude, coach, pour le PSG ce soir, pourquoi ?
Oui, on l'attend aussi avec curiosité, quelques choix en ce qui concerne la composition d'équipe. Est-ce que, par exemple, Ramos va redevenir un joueur de football? Donc, est-ce que Kylian va démarrer le match, ou est-ce que on va avoir un petit peu l'inquiétude d'une blessure? Oui, c'est des petits détails comme ça qu'on attend avec beaucoup de curiosité.
Ouais, il y a pas mal de choses à voir.
Ouais, la question a été posée d'ailleurs à Kylian Mbappé par un des gamins tout à l'heure et il a dit je sais pas. Gonzalo Ramos et Ugarte sont annoncés comme titulaires. Ce sont deux joueurs qui sont en manque de temps de jeu en ce moment. Colomouani normalement à la place de Dembélé et Mbappé peut-être retrouverait le côté gauche s'il est titulaire. On n'a pas d'infos précises pour l'instant. Il peut aussi être sur le banc des remplaçants et arriver à entrer en cours de match peut-être pour aussi lui, donner la possibilité au public de le voir jouer. Mais je pense que c'est pas la première des interrogations ou des inquiétudes de Luis Enrique. Encore une fois, si Mbappé doit débuter, il débutera. Et si un Luis Enrique doit mettre en place une équipe solide et costaud, ce seront les meilleurs qui seront sur le match, sur la pelouse de Pierre Fabre tout à l'heure au moment du coup d'envoi.
Ouais, et puis sur le plan défensif, ça sera intéressant de revoir ce Mokele qui lui aussi est considéré comme un joueur
comme latéral gauche en principe.
Moyen, mais moi je pense qu'il peut être très utile compte tenu des.
Et une charnière inédite avec Danilo et Beraldo, ouais. le Brésilien qui vient d'arriver. Et le retour de Navas aussi, parce que je vous parlais de Pays de Cassel, c'était l'an dernier en 16e de finale, son dernier match officiel avec le Paris Saint-Germain. Donnarumma n'est pas du déplacement, Navas sera titulaire ce soir.
Et ça, c'est faux aussi, coach, de revoir Keylor Navas dans la cage du PSG. Comme quoi, finalement, c'est vrai que son histoire, Jeannot...
On avait oublié même qu'il était encore au Paris
Saint-Germain.
Oui, c'est
ça, son histoire avec le PSG est mouvementée hein, pour Keylor Navas, Jeannot.
Ouais, il sort d'une lombalgie. D'ailleurs, quand on prononçait ça, mal au dos, à l'infirmerie, ça faisait sourire certains. Il est revenu, il est là. Il est avec le Tellier et avec un troisième jeune gardien qui s'appelle Louis Mouquet. Il y a un groupe élargi hein, de 24 joueurs. Ils ne seront que 20 sur la feuille de match. Il y a pas mal de jeunes titis parisiens aussi qui ont été récupérés par Luis Enrique à l'entraînement. Il y a Kylian Mbappé, mais il y a Ethan aussi qui pourrait peut-être avoir un petit peu de temps de jeu. Le jeune frère de Kylian Mbappé dans ce match de Coupe de France. Donc c'est vrai que quand on donne des noms comme celui-là et celui de Navas avec ses Ligues des Champions remportées par le Real Madrid, de l'imaginer là quelques secondes en fermant les yeux à Castres dans le Tarn pour un match de 32e de finale de Coupe de France.
Ouais, je pense que même lui il l'avait pas
peu,
imaginé.
Un petit peu dommage non pour lui, ça fait un peu gâchis quoi.
Et même lui je pense qu'il l'avait pas imaginé. On va écouter justement Luis Enrique tient sur l'importance de cette Coupe de France, il va la découvrir lui cette compétition aujourd'hui et il compte bien ne pas galvauder en tout cas ce premier match.
Sans un premier match, tu ne peux pas jouer le deuxième match. Pour pouvoir gagner ou pouvoir être en disposition de gagner cette coupe, tu dois gagner le premier match. La compétition commence demain et nous devons aborder cette compétition comme toutes les autres que nous jouons, avec une totale concentration et en connaissant l'importance de ce trophée. Et si je veux utiliser des joueurs utilisés tout au long de la semaine, avec des joueurs jeunes, vous savez que nous avons toujours un œil sur le centre de formation et oui, je suis ouvert à tout. Mais pour nous, c'est un match très sérieux, sans la possibilité de prendre ce match au sérieux, c'est difficile d'arriver au deuxième, surtout si tu ne gagnes pas.
Je t'ai vu, coach, sauter au plafond.
Non, mais attends, par moment, je me demande mais pour qui nous prend. Non, mais tu as entendu ce que tu entends de nous dire, qu'il vaut mieux gagner que perdre, que le premier match,
il est
avant le second, que si tu perds, ben, tu peux plus gagner la coupe. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant d'écouter ce mec.
Non mais coach Luis Enrique tu te rappelles de ses déclarations quand il était sélectionneur de l'Espagne, quand il était entraîneur de Barcelone, même à la Roma, il n'aime pas ce genre d'exercice, il n'aime pas rencontrer la presse, il n'aime pas discuter avec la presse comme
nous,
ça en conférence.
Nous on n'aime pas l'écouter.
Lui, il est en permanence dans le contre-pied, quoi. Voilà. Et c'est vrai que quand tu décryptes ces paroles-là, c'est un véritable robinet d'eau tiède, voire même un petit peu d'eau froide.
Merci, Jeannot. On te retrouve tout à l'heure. Ce soir, 20h45 pour le coup d'envoi. Tu seras avec Wilfried Templier. Quel chanceux tu es, Jeannot.
Oui, lui,
il
connaît beaucoup
soir.
Mieux la maison que
ouais,
moi.
Il connaît très bien
plus l'habitude de venir ici.
On sera au rendez-vous, évidemment, sur
RMC.
À tout à l'heure, Jeannot. Il est 18h35. Ça reprend sur les pelouses de Coupe de France. On va aller, tiens, du côté de Dinan pour la seconde période face à Reims. Pierre-Yves, ça va reprendre dans quelques secondes maintenant.
Oui, mais alors le souci, Dinan Léon, au stade du Clos Gastel, c'est que il faut, pour les joueurs, sortir de la tribune et traverser la pelouse parce que le banc et les bancs sont de l'autre côté. Voilà, c'est aussi le charme du football amateur. Il y a des choses un petit peu différentes de la Ligue 1 et c'est le cas aussi pour les Rémois qui vont donner le coup d'envoi dans quelques instants. Et ils ont bien débuté cette rencontre. Au bout de 8 minutes, ils menaient 2-0 grâce au doublé de Mamadou Diakon. Et voilà, c'est reparti à l'instant. Mais les Dinanais n'ont pas dit leur dernier mot. Ils se sont créés quelques petites occasions. Lorient. Ils espèrent évidemment faire douter cette équipe en revenant à 2-1. Pourquoi pas? C'est reparti depuis 10 secondes. 2-0 pour Reims face à Dinan.
Ça repart un peu sur toutes les pelouses et c'est reparti fort pour Laval, Johan.
Exactement, sur la pelouse de Dieppe, 49e minute de jeu. Et le deuxième but pour les Tango, ça fait 2-0 donc pour le Stade Lavallois à Dieppe. T'en parlais, coach, c'est le petit break, c'est ça, 2-0?
Ben oui. Ouais, voilà. Ouais, mais cette équipe de Laval, j'étais en train de réfléchir quand même, que bon, c'est une sacrée saison qu'elle est en train de, ouais, Nicolas, de faire. Ouais, ouais. L'objectif au début, c'est le maintien. Ouais. Alors qu'ils sont 3 ou 4e.
4e de Ligue 2, ouais.
Bon, encore, bon, sauf la catastrophe, ils vont être en 16e de finale de la Coupe, ce qui est quand même une très bonne chose pour ce club-là. Moi, je dis bravo, notamment Olivier Frappoli, qui est un entraîneur, pour moi, une fois de plus, un Français méconnu par rapport à ses qualités.
Et avant la trêve, ça avait été compliqué pour Laval en championnat. 4 matchs sans victoire, mais c'est vrai qu'il y a cette seconde partie de saison, et t'en parlais, ce match de Coupe de France qui pourrait les relancer. Donc 2-0 pour Laval sur la pelouse de Dieppe à la 51e.
On est reparti aussi du côté de Bergerac face à Libourne, Nicolas Paul Orsi.
Ça va repartir dans quelques secondes de but 1 pour Bergerac. Je vous rappelle le scénario de la première mi-temps. Libourne, alors ça vient de repartir là. Coup d'envoi donné par les joueurs de Bergerac. Libourne a ouvert le score sur une erreur du gardien de Bergerac, et puis derrière, deux minutes après, le très beau but d'Axel Tressin. C'est un coup franc direct d'Hicham Mlab. Pour l'instant, c'est mérité. Attention à Libourne quand même, qui est deuxième de sa poule de National 2 et qui a fait un changement à la mi-temps avec l'entrée d'Agoro à la place de Sané. Les Libournais qui vont forcément essayer de se ruer à l'attaque désormais, alors qu'ils étaient plutôt équilibrés, bien en place en première période. 2-1 pour Bergerac dans ce stade de Camp Réal, atypique, voilà. Petite tribune en bois, pas beaucoup de toilettes à la mi-temps. Je vais pas vous cacher qu'on a fait la queue.
Ah,
quand même.
C'est un petit peu dur.
On a fait la queue longtemps. 2-1, c'est reparti depuis 40 secondes.
C'est reparti aussi à Chambéry face à Toulouse. Édouard G était en bonne compagnie parce que là, en plus, les Chambériens poussent depuis le retour des vestiaires. Là.
Ouais, ils sont toujours menés 2-0. Nous en sommes à la 48e minute et je suis avec l'un des grands absents puisqu'il s'est blessé en championnat du côté de Limonest juste avant Noël, en championnat donc aux ischios. Nicolas Volic.
C'est ça. Bonjour à tous.
Joueur de Chambéry, blessé, qui a assisté donc à la première mi-temps, mais surtout à la causerie. Alors, qu'a dit Hervé Ivars, votre entraîneur?
Bah écoute, il a dit qu'on a quand même fait une belle première mi-temps malgré le score. Je trouve qu'on a été bien en place, qu'on a quand même proposé du jeu. Ce qui est dommage, c'est de prendre sur trois frappes de but. Malheureusement, c'est le haut niveau. On paye cash certaines erreurs. Et voilà, le coach a insisté qu'il fallait continuer, peut-être lâcher un peu plus les chevaux, parce que voilà, 2-0, de toute façon, maintenant, on risque rien. Donc, à part tout donner, un peu enflammer ce stade. Et puis voilà.
Il n'y a pas trop de frustration de ne pas être sur le terrain?
Ah si, c'est très très frustrant. Honnêtement, c'est très dur d'être du côté spectateur. Je préfère être acteur, mais malheureusement, c'est comme ça. Voilà, je donne tout ce qu'il y a de moi pour supporter l'équipe et j'espère vraiment qu'ils vont marquer ce petit but pour pousser ce stade.
Alors, parce que Flora, coach, j'ai à côté de moi Nicolas Volic qui a joué face à Toulouse en 2021 en Coupe de France, un quart de finale. C'est ça, vous aviez gagné 2-0. C'était la grande épopée. Alors certes, c'était une époque un peu difficile avec le Covid, donc c'était une série, une aventure qui avait commencé assez tôt. Et puis aussi l'année dernière avec Chambéry toujours.
Ouais, face à Lyon. À l'OL, au Groupama Stadium.
En 16e de finale. Donc, un habitué des. Donc, finalement, louper un 32e, t'en as déjà tellement fait.
Ouais, mais honnêtement, celui-là, il me fait quand même mal au cœur parce que c'est à la maison, nouveau stade. Le stade est plein, il y a 5000 personnes. C'est quand même spécial de jouer à la maison devant ses proches. Mais la Coupe de France, c'est magique pour un joueur amateur. Moi, j'ai déjà connu 3 parcours, c'est incroyable. Déjà, faire un parcours, c'est rare. Mais alors, en tant qu'amateur, en faire 3, c'est exceptionnel. Donc oui, la Coupe de France, ça reste quand même magique pour un amateur.
Je vois si vous avez une question, Flora, pour Nicolas, coach.
Est-ce que déjà le retour est prévu en cas d'éventuel 16e de finale pour toi, Nicolas, ou pas?
Non, malheureusement, j'en ai pour un mois et demi. J'ai une petite désinsertion au niveau de l'ischio jambier. Je me suis blessé un peu bêtement, on va dire, à la 87e minute, à la fin du match. Mais bon, c'est comme ça.
Après, dans quoi sur une accélération, sur un changement de direction
Sur un appui. J'étais cuit. On menait 1-0. C'est moi qui marque. Enfin, bref. Mais voilà, malheureusement, il est vraiment arrivé au pire moment, quoi. Donc, mais c'est comme ça. C'est le sport, c'est le foot. Faut accepter. Et puis voilà. Mais malheureusement, si on passe, je serai pas là. Peut-être pour le tour d'après.
C'est ça. Faut aller encore plus loin.
donc déjà, faut revenir dans ce match parce que c'est pas facile. Mais on sent
quand même, c'est chez Chambéry, tu vas pas nous dire le contraire, je pense qu'il y a un vrai état d'esprit, on sent que les joueurs sont revenus avec des vraies intentions dans ce début de seconde période. Ça fait partie aussi de cette mentalité au club, tu peux nous le confirmer, de ne jamais rien lâcher finalement, même quand on est mené comme ça.
Je vous confirme vraiment, hein, on est une équipe, on a peut-être moins de talent que certaines, mais par contre, au niveau de l'envie de bien faire et au niveau de l'envie de pousser, je pense pas qu'on puisse faire mieux que nous. Donc le coach a bien insisté sur lâcher les chevaux. Donc là pour l'instant on le fait plutôt bien. Donc faut continuer.
Avec cette équipe, avec beaucoup de joueurs du coin, beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'années de licence, on sent vraiment quelque chose dans toutes ces aventures et ça vous porte.
Ouais, c'est ça. En dehors du foot, on est tous copains aussi. Donc vraiment il y a une âme dans cette équipe, il y a une entente qu'il n'y a pas forcément dans tous les clubs. Donc voilà, à nous de pousser. Hein.
Et comme quoi en Savoie, il n'y a pas que l'ADN pour tenir en équilibre sur des skis et sur des pistes. On peut aussi bien jouer au foot. On l'avait vu notamment avec Rumilly, on l'a vu aussi avec Annecy l'année dernière. Et donc aussi régulièrement avec Chambéry. Toujours 2-0 donc à la 52e minute. Nico, un dernier mot.
Non, bah allez chamber et puis j'espère
au tir au but au moins.
Ouais, bah revenir au score déjà à 2-1 pour mettre un peu de folie dans ce stade parce que je sais pas si vous avez vécu contre Grenoble mais c'était quelque chose. Donc je pense que ça peut exploser. Donc j'espère qu'on va marquer ce petit but là.
Voilà, le fameux troisième but dans un 2-0, mon cher coach. Mais pour l'instant, malheureusement pour lui et pour les Chambériens, il y a 2-0 pour Toulouse.
Mais en tout cas, on te souhaite vraiment un bon rétablissement.
Ouais, merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous sur RMC. Très sympa. Merci Edouard aussi d'avoir rendu ça possible. On va revenir te voir évidemment pour voir si Chambéry va arriver à ne serait-ce que réduire un petit peu l'écart avec Toulouse. On va prendre des nouvelles de Reims aussi qui mène tranquillement sur la pelouse de Dinan, Pierre-Yves.
Eh bien, pas si tranquillement, parce que ici, on l'a eu le moment de folie il y a quelques instants. Certes, il y a 2-0 au tableau d'affichage, mais Dinan a marqué il y a quelques instants par Sofiane Valla. Et franchement, je pensais pas qu'il était en jeu, mais l'arbitre a vu tout de suite le drapeau se lever et annuler cette réduction de l'écart. On n'en est pas loin, vraiment, depuis maintenant un bon moment du côté de Dinan. Mais il y a toujours 2-0 pour Reims. Je pense pourtant que les Rémois ont dû se faire bouger un petit peu par Will Steele à la pause, qui a dû leur dire, on plie ce match. On met le troisième parce que sinon on est toujours à la merci d'un retour de cette équipe de Dinan qui vraiment fait le jeu à l'image encore de ce coup franc et ce ballon qui arrive au point de pénalty. C'est dégagé par les Rémois. On va surveiller ce contre parce que ça peut aller très très vite. Un 4 contre 3 intéressant à jouer dans la profondeur, mais trop profond. Ça doit agacer aussi le coach de Reims parce que là il y avait vraiment mieux à faire. 53e, 2-0 pour Reims face à Dinan ici au stade du Clos Gastel dans les Côtes d'Armor à Dinan.
Et puis on suit aussi ce Bergerac-Libourne, Nico Paolorsi. Ça s'est animé en fin de première période. Qu'est-ce qu'il en est dans ce début de seconde?
On joue la 52e. Déjà, il y a toujours 2-1 pour Bergerac. Et le scénario, c'est un peu inversé. Bien évidemment, les Bergeracois qui sont un petit peu plus bas et les Libournais qui essaient de se projeter. Il y a eu un changement aussi qui a fait du bien, l'entrée d'Agoro sur le côté gauche. Il n'y a pas vraiment d'action tranchante côté Libourne, mais on sent que ça pousse un petit peu plus sur le but de Pierre Laborde qui va dégager et qui va tenter de dégager le plus longuement possible pour essayer de permettre à son équipe de s'aérer un petit peu. Tiens, j'ai un petit quiz. Est-ce que vous savez qu'à la rédac RMC Sport, on a deux journalistes qui sont de Bergerac?
Ouf.
Ah donc,
ouais. Oui, j'ai les noms.
Vas-y, je crois pas qu'il soit encore à la rédac, mais vas-y Pierre-Yves.
Il y a un certain Julien Richard.
Julien Richard, notre spécialiste de natation.
Je crois qu'il y en a un autre.
MM, c'est ça.
Et ouais, Morgane Maury aussi.
Morgane Maury.
Notre judoka.
Voilà. Eh ben, j'aurais pas misé dessus, comme et quoi.
Ouais, ouais, ouais. Deux journalistes qui viennent de Bergerac et qui.
Comme quoi, on peut s'en sortir.
Deux buts à 53 minutes de jeu ici.
On fait le point sur les autres matchs qu'on suit aussi avec toi, Johan, dont notamment Laval.
Ouais, Laval qui a fait le break. On en a parlé en tout début de seconde période. 2-0 pour les Lavallois sur la pelouse de Dieppe. Des buts de Bobichon à la 8e et de Kadilé à la 49e. On est à l'heure de jeu. 54e minute de jeu entre Feur et Saint-Priest. Deux équipes de National 3. 2 buts à 1 pour Saint-Priest. Et Rouen qui mène toujours 1-0 à la 58e sur la pelouse de Louan Cuisant.
18h46 sur AMC. On revient dans quelques instants avec Coach Courbis pour la dernière ligne droite de l'intégral foot avant de laisser la main à Bartoli Time. À tout de suite sur AMC.
RMC Intégral Foot.
Fleuramussi. 18h48, on est de retour avec Coach Courvis dans l'Intégral Foot. On vous accompagne jusqu'à 19h. Après, c'est votre rendez-vous du dimanche. Bartoli Time avec Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet et leur invité exceptionnel ce soir, la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra. En attendant, on suit toujours les 32e de finale de la Coupe de France avec Toulouse, le tenant du titre en déplacement à Chambéry. Édouard, il y a eu du changement à côté toulousain.
Oui, du changement, pas au tableau d'affichage, hein. Toujours 2-0 et ce doublé de Nathan Skita, mais au niveau des joueurs, notamment donc du côté de Toulouse où Gélabert a remplacé Caceres et puis Donmoun a remplacé Begraoui. Voilà pour les deux changements pour le club de Haute-Garonne. Et du côté de Chambéry, on a aussi procédé à deux changements. Ça sera pas pour tout de suite, hein, l'entrée de Nassim Akrour. Si coach, il joue encore.
Au-dessus pour Reims, on était tout près du 3-0, mais ça passe au-dessus. Encore un peu d'espoir pour Dinan Léon, 59e minute, toujours 2-0 pour Reims.
C'est extraordinaire ce que fait ce mec. C'est... Quel âge ça lui fait exactement, 49?
Il va avoir 50 ans au mois de juillet prochain. Il est toujours son hygiène de vie irréprochable. Tout à l'heure, je lui ai demandé si pour les fêtes, là, il s'était au moins autorisé une gorgée de.
Attaquant. Bon, arrière central, on l'a vu déjà avec Hilton, avec Dante, avec Pépé. Mais bon, lui il joue numéro 9.
Exactement, et quand il rentre, alors en principe, il va se le faire entrer dans le dernier quart d'heure. Hein, et là, c'est vrai qu'il distille de super ballons à ses coéquipiers. Alors, il bouge pas beaucoup, hein, comme il me dit, il reste dans un petit périmètre. Mais alors, les ballons lui viennent et il les remet. Et
un jeu de tête extraordinaire.
Exactement, avec une intelligence de jeu. Et puis pour le groupe, c'est vrai que pour un entraîneur, c'est fascinant d'avoir un joueur de 49 ans et demi dans son effectif. Donc c'est pas lui qui est rentré pour le moment, mais il y a quand même eu deux changements, notamment devant, pour essayer d'inverser la tendance et de mettre cette petite étincelle dans cette rencontre, parce qu'on sent quand même que s'il y a ce fameux troisième but dans ce 2-0, donc si c'était un 2-1, eh bien les Toulousains peut-être seraient un petit peu dans la panade. Mais pour l'instant, leur joueur venu du froid, le Finlandais Nathan Skita marque son doublé. C'est un premier doublé, il avait déjà en professionnel, il avait déjà marqué en février 2022, m'a dit un certain JR Jeannot Rességuier, qui bien évidemment a toutes les stats sur l'équipe de Toulouse. On en reste donc à 2-0, on est à l'heure de jeu.
Du côté de Laval, il y a eu le troisième but, mais c'est pas le but du 2-1, c'est le 3-0 et pratiquement qualification pour Laval, et bravo Laval.
Vas-y,
bah, le break fait par Laval, c'est ton vrai break.
Le 3-0, c'est le gros break.
Pour aller Lavallois face à Dieppe, sur la pelouse de Dieppe, exactement, ça se passe très bien. Il reste 25 minutes à jouer, donc 3-0 pour les Tango, 4e de Ligue 2 face à Dieppe, donc encore 66e minute de jeu.
Allez, on retourne du côté de Dinan cette fois, parce que Reims pousse, hein, Pierre-Yves, hein, pour mettre justement ce troisième but.
Exactement, histoire de mettre les pendules à l'heure à la 60e minute, ça serait bien pour les Rémois. 2-0 et on fait sortir, tiens, le double buteur Diacon qui va céder sa place à Joshua Wilson dans quelques instants. Premier changement pour cette équipe rémoise et premier changement dans cette rencontre d'ailleurs où Dinan ne perd pas espoir encore de revenir à 2-1, mené 2-0 depuis la 8e minute avec donc Diacon, double buteur qui vient de céder sa place. Il a réussi sa titularisation après quelques apparitions en Ligue 1. Le jeune joueur de 18 ans qu'on pourrait revoir d'ici peu dans l'élite. Et pourquoi pas, tiens, contre Monaco. Ça sera le prochain adversaire de cette équipe rémoise la semaine prochaine. 62e minute, 2 pour Reims, 0 pour Dinan.
Du côté de Bergerac face à Libourne, Nico Paolorsi, est-ce que ça se décante un petit peu? Est-ce que tu arrives à voir une équipe?
Non.
Non, très bien. Non, t'es reparti sur les mêmes bases qu'en première?
Ouais, un peu. Non, 2 buts à 1, toujours pour Bergerac lors de jeu ici. Ça va un petit peu mieux pour Bergerac qui faisait le dos rond en début de seconde et qui là se permet de ressortir le ballon. On a vu Moussa Fati, l'ailier gauche, percuter. Là, à l'instant, c'est Hicham Mlab, le meilleur joueur de Bergerac sur la première mi-temps, qui va provoquer un coup franc. Du
Est-ce
côté
qu'il
de
est aussi bien placé? Non, c'est pas.
Non! Non, totalement excentré celui-là. Et oui, parce que le deuxième but de Mlab a été marqué sur coup franc direct à 22 mètres, parfaitement frappé. Libourne va faire du changement avec l'entrée en jeu d'un milieu de terrain créateur, Théo Montavit, qui peut apporter des choses aussi. Coup franc pour Bergerac, frappé de la droite vers la gauche. On est loin, c'est un corner ouvert, c'est Mlab qui va s'en charger. Ils ont été bons hein, sur coup de pied arrêté en première mi-temps, les Bergeracois. Il y a eu une double parade, notamment d'Over Mandanda, mais là il s'est un petit peu déchiré. Il est monté très haut ce ballon et Mandanda a pu s'en saisir sans problème. Over Mandanda qui est dans sa partie. On pourrait faire un mauvais jeu de mots à l'anglaise. Il est dans son game over.
Oh
ouais. Ouais, bon, alors là
messieurs,
ah bon, on s'ennuie un petit peu hein.
Des autographes hein.
Je vais pas vous cacher, on s'ennuie un petit peu quand même. On a
donc
le temps
tu cherches des jeux de mots du coup, ouais, tu voilà. Cherches des petits jeux de mots, très bien. On va retourner voir Pierre-Yves parce que là ça chauffait encore pour Dinan hein,
Pierre-Yves il a pas compris le jeu de mots, il parle pas anglais je crois.
Je parle breton, c'est pour ça. Et les joueurs dinanais qui effectivement sur ce corner étaient encore une nouvelle fois, c'est quand on regarde les stats, c'est assez incroyable, ils sont menés 2-0 mais ils ont eu 8 tirs. Simplement, il y en a 6 qui ne sont pas cadrés, 2 seulement cadrés. Alors que du côté rémois, il y a 5 tirs, mais il y en a 2 qui vont au fond des filets. Ça fait la différence, la précision, le côté tranchant. Mais malgré tout, ils n'arrivent pas à mettre ce troisième but. Et les rémois, ils restent toujours, pourquoi pas, à portée de cette équipe bretonne qui possède une nouvelle fois le ballon. Là aussi, on pourrait avoir une large domination, une maîtrise au niveau de la possession de la balle. Eh bien, on est sur du 58 pour Reims, 42 pour Dinan, qui est mené 2-0.
Allez, le temps, le score du côté de Chambéry face à Toulouse, Edouard.
Eh ben, j'ai failli vous compter le troisième but toulousain.
Ah, on n'était pas loin. Ouais.
Mais on n'était pas loin. Mais finalement, on en reste à 2-0. Le doublé de Nathan Skita. Nous en sommes à la 65e.
Nico Paolorsi pour ce Bergerac-Libourne.
La 62e de Buzyn pour Bergerac.
Allez, on fait le point sur les trois autres matchs avec toi, Johan.
Et donc 3-0 pour Laval sur la pelouse de Dieppe, 69e minute de jeu. 3-2 désormais dans ce duel de National 3 entre les deux équipes du même groupe. Feur, Saint-Priest, c'est pour Saint-Priest. Saint-Priest qui mène donc à 20 minutes du terme. Et 1-0 pour Rouen sur la pelouse de Luan Cuiseau depuis le but de Dia à la 35e. Il reste plus de 20 minutes à jouer.
On va suivre tout ça évidemment dans Bartoli Time. Merci coach.
Salut.
La Coupe de France qu'on suivra évidemment sur RMC, ça continue avec toi JC pour ce Bartoli Time exceptionnel aujourd'hui.
Exactement. Bonsoir Flora, bonsoir à tous. Bartoli Time exceptionnel pour débuter l'année en beauté. Marion Bartoli reçoit la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra. Bonsoir Marion.
Mais bonsoir mon JC, bonsoir à tous. Et oui, nous commençons l'année de manière extrêmement forte.
Exactement.
Tout de suite, on a donné le tempo JC pour cette année 2020. Ça va être exceptionnel.
Allez, restez bien avec nous. L'interview avec la ministre des Sports, c'est dans quelques instants sur RMC, dans Bartoli Time.